Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cet épisode vous est présenté avec la somptueuse générosité de Xavier Guimanet, Taranis, Diapason, Alexandre Delte, Marshall Banana, Benoît Curdi, David Michael, Emma Béja, David Caudal et Maé. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. On va vous parler de plein de choses vraiment, vraiment intéressantes aujourd'hui. Bon, les autres épisodes aussi, on a des choses intéressantes, mais là, pour le coup, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. On a le projet ARA, ce fameux téléphone modulaire de Google/Motorola, qui est peut-être un petit peu moins totalement invraisemblable que je le pensais à l'origine. Vous en entendrez quelques détails dans l'émission. On va vous parler aussi de cette annonce invraisemblable qui a eu lieu hier dimanche au moment où on enregistre cette émission de Free qui rachèterait Bouygues Télécom, mais Bouygues rachète SFR. Mais en fait, les réseaux passent d'une main de l'un à l'autre. Enfin, c'est un micmac qu'on va vous démêler dans l'émission. On aura aussi dans les sujets principaux tous les détails sur Bitcoin qui est en train d'imploser ou d'exploser, on ne sait pas trop, mais en fait peut-être que c'est pas si grave. Et le créateur a-t-il été démasqué ou non ? En fait, c'était pas lui. Là aussi, on vous démêlera toute cette histoire dans l'émission. On aura d'autres choses à évoquer aussi dans les news et rumeurs, mais avant ça, je vais présenter mes deux co-animateurs excellents qui sont là pour commenter l'actualité avec nous. On va commencer par un expert de la téléphonie mobile, Cédric Bonnet, qui nous fait l'amitié de venir dans l'émission. Comment vas-tu, Cédric ?
Ben salut, écoute, ça va très bien. D'ailleurs, expert de la téléphonie mobile qui a failli tomber en rade de connexion Internet.
Oui, c'est quand même pas mal. Un quart d'heure avant,
un Numéricab me lâche.
Ah, c'est lamentable.
Ah, voilà. Heureusement, j'avais pris.
Moi, j'ai tu as tout compris. Moi, j'ai eu une journée complètement désastreuse et donc je suis vraiment heureux de pouvoir vous rejoindre dans l'émission. Tu vois, c'est mon moment de bonheur en fait. J'espère que quand vous aussi, chers auditeurs, vous avez une semaine difficile ou une journée un petit peu difficile où vous avez pas la forme où vous dites bon là ça va pas super bien. C'est au moins vous avez l'émission qui arrive et vous dites que vous allez passer un bon moment pendant au moins ces quelques temps. Et ben moi, c'est le cas. Et heureusement, tu es là, Cédric.
Wow.
Par contre, Jeff, qui est là aussi, qui était là en tout cas, a visiblement des problèmes de téléphonie également. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Le sort s'acharne. Mais
en fait,
il nous rejoindra
en cours
d'émission.
C'est un dossier brûlant, en fait. C'est pour ça.
Possible, possible. Bon, en tout cas, je suis certain qu'il nous rejoindra pendant l'émission. Et ce avec quoi on va commencer, c'est un sujet qui pour lequel je vais devoir expliquer pendant un moment, donc on va se lancer, c'est le projet ARA. Il y a eu, d'ailleurs je remercie Puma A33 sur Twitter qui m'a donné le lien d'une vidéo, qui est la vidéo où un ingénieur de Motorola slash Google vient expliquer en long détail comment fonctionne ce téléphone modulaire qui est donc customisable, modulaire, assemblable comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut le changer en fonction de son utilisation. On va vous donner un petit peu tous les détails. On mettra le lien de cette présentation dans les liens de l'émission sur le blog si vous voulez en avoir un petit peu plus de détails. Tu l'avais vu avant que je ne retweete ce lien, Jérôme. Cédric, oui, tu l'avais
ouais,
vu.
Ouais, je l'avais vu avant. Ben, le jour où elle a été publiée, je suis tombé dessus.
C'est une vidéo de la conférence Launch, qui est le projet de Jason Calacanis, que certains de nos amis de Niptech aiment bien.
Oui.
Je pense à Mike. Et il fait des interviews de différentes personnes. En l'occurrence, il y a une bonne trentaine de minutes de présentation de exactement comment ça fonctionne.
Ah bah là, il a eu une méga exclusivité en fait. Hein.
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, la vidéo était un petit peu down pendant quelques jours. Je me demande si c'était pas lié à ça.
Ah, c'est possible.
Ouais, c'est possible. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ARA ? Alors, vous vous souvenez certainement de PhoneBlocks, qui était un projet Kickstarter dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, de téléphones modulables et évolutifs qui se baseraient sur la modularisation pour faire évoluer le téléphone. C'est-à-dire que vous auriez des modules, un module caméra, un module processeur, un module mémoire,
etc.
Une sorte de Lego, effectivement, du téléphone mobile. L'idée de PhoneBlocks était que les téléphones n'auraient plus besoin d'être renouvelés entièrement parce qu'on pourrait en renouveler des morceaux. Moi, j'y crois pas tellement parce que je dis que la connexion en elle-même est importante et que les connexions évoluent. Donc, si on a cette connectivité qui n'évolue pas parce que c'est le châssis, eh ben c'est compliqué de faire évoluer l'ensemble. Par exemple, si on arrive à des processeurs 64 bits, eh ben le reste doit évoluer aussi. Et dans le monde du PC, c'est souvent un petit peu le cas. La présentation qui nous a fait... Bon, j'irai à la fin ma conclusion, mais en tout cas, la manière dont ça fonctionne, il y a pour le moment trois types d'endosquelettes, qu'ils appellent des endosquelettes, qui sont des châssis sur lesquels viennent se loger des modules. Alors, il y a un mini, un type smartphone et un type phablette, et les modules font de une fois une, donc des petits carrés, ou deux fois deux, c'est-à-dire des gros carrés, ou alors ils peuvent aussi faire un fois deux, c'est-à-dire des rectangles. Donc vous avez quatre...
Un peu comme des tuiles Windows, quoi, tu vois.
Un petit peu ça, oui. C'est trois tailles différentes. C'est trois tailles différentes, et vous avez dans le châssis des différents emplacements dans lesquels vous pouvez mettre ces différents blocs. Ensuite... Vous avez les modules qui peuvent servir à différentes choses. Comme je le disais, il peut y avoir des modules processeurs, modules identité d'ailleurs, qui était une idée plutôt marrante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le module identité que vous passez d'un téléphone à l'autre pour garder toutes vos données personnelles et les utiliser dans un autre téléphone facilement.
Vous avez le paramétrage, quoi.
Voilà, le paramétrage, mais même plus. Hein, ça peut être les comptes que vous utilisez, les données,
etc. Quand je
pense
paramétrage, c'est au sens large, quoi.
Voilà. Etc., etc. Et vous pouvez, en fonction de vos besoins, l'endosquelette, le châssis, lui, n'a qu'un tout petit peu de batterie et il s'occupe de faire les connexions entre les différents modules, évidemment. Et vous pouvez donc l'assembler, le customiser en fonction de vos usages. Par exemple, vous vous dites, là, je vais juste au bureau et puis je reviens, donc je vais avoir la version mini. Je prends tous les modules et je les colle dans un petit châssis. Tous les modules dont j'ai besoin, je les colle dans un petit châssis et je l'emmène au bureau. Si vous avez un autre... alors Jeff est revenu. Hop, on le rajoute à la conversation. Visiblement, le sort s'est acharné puisqu'il n'avait plus de batterie. Enfin, de batterie, plus de courant.
C'est ça la Californie. De temps en temps, on n'a plus de courant.
Voilà, c'est ça. Donc, on disait, vous pouvez assembler le téléphone ARA en fonction de vos usages. Si vous avez pas besoin de pas beaucoup de choses, vous allez juste au bureau, bah, vous prenez quelques trucs. Si vous partez en voyage, vous allez prendre un endosquelette, un châssis plus gros et vous allez mettre une plus grosse batterie et même des fonctionnalités comme l'appareil photo, dont vous n'avez pas forcément besoin dans la vie de tous les jours. Là, vous allez prendre un bel appareil photo, etc. Donc, vous pouvez vraiment le customiser. Et cet aspect customisation est beaucoup plus mis en avant que l'aspect évolution. Hein, on se souvient que PhoneBlocks, c'était l'idée de s'acheter un seul téléphone et puis c'était fini pour toujours. Là, c'est beaucoup plus l'aspect customisation qui me paraît beaucoup plus crédible. Un autre système hyper malin, c'est que le maintien des modules en place est vraiment hyper intelligent. C'est-à-dire que il se fait par des sortes d'aimants électro-permanents. C'est-à-dire que les aimants ont une force en fonction du fait qu'ils sont activés ou pas. S'ils sont pas actifs, ils ont une force de 3 newtons qui est juste suffisante pour les garder sur le châssis. Par contre, une fois qu'ils sont actifs, c'est-à-dire qu'on On fait passer un petit peu de courant, voilà. On fait passer un peu de courant et ensuite ça ne consomme plus d'électricité, c'est juste qu'ils sont activés. Et ben ils passent à 30 newtons, c'est-à-dire 10 fois plus, c'est quelque chose qui est vraiment voilà, faut vraiment y aller fort. Donc ils tiennent vraiment sans consommer d'électricité. Donc ça c'est un système super malin, ils se glissent et s'enlèvent du châssis très très facilement. Ensuite, il y a le fait que il y a des décorations et des éléments qui peuvent être imprimés par des imprimantes 3D, voire même dans le futur des antennes. Donc, vous avez votre antenne qui peut être votre antenne 3G qui peut être imprimée par l'imprimante. Et le but du projet, de la manière dont il le présente, c'est d'appliquer le modèle Android, donc on pourrait dire le modèle PC, hein, mais vraiment le modèle Android, au matériel et à la mobilité. C'est-à-dire que c'est un modèle PC un petit peu plus contrôlé, mais où effectivement tout est ouvert avec comme idée principale d'amener des sociétés qui ne sont pas forcément dans l'écosystème mobile à y entrer. On peut imaginer par exemple qu'avec ces modules, avec ce système modulable, une société de photos, une société de son ou une société d'analyse médicale ou de qui fait des modules spécialisés pour les déficients visuels peut facilement y entrer. Par exemple, on pense à Beats Audio qui pourrait faire un module haut-parleur ou alors
Instagram,
sais pas Nikon,
un module photo.
Par exemple, oui, mais même des grosses sociétés établies Instagram ou Nikon ou Sony etc. pourrait faire un module photo etc. etc. On peut même imaginer enfin tout comme pour Android les systèmes des App Store et tout ça, c'est-à-dire que tout le monde peut entrer dans ce marché. Enfin, je conclue avec le fait que le modèle de base coûterait, c'est le but, environ $50. C'est juste un écran et du Wi-Fi, hein, y a quasiment rien d'autre, mais c'est vraiment la base. Les connecteurs font les courants, le courant et les données, et c'est un protocole du MIPI, qui est un des organismes qui standardisent tout ça. C'est le MFI qui fait 10 gigabits par bloc de connecteur. C'est-à-dire qu'un bloc de 2x2 qui aurait donc 4 connecteurs pourrait faire du 40 gigabits. C'est plutôt beaucoup, hein. A priori, assez à l'abri pour l'avenir. Pour moi, il reste quand même des questions pour l'aspect évolutif. Et pour l'aspect vraiment grand public, c'est-à-dire que est-ce que la diffusion de chaleur sera pas moins bonne avec ces trucs qui peuvent s'assembler, la consommation d'électricité ne sera pas plus grande, les économies d'échelle, la finesse du truc, c'est-à-dire que si tout est designé avec des millions et tout est collé, évidemment c'est plus fin. Moi, je prends par exemple le fait que les portables soient de plus en plus, les ordinateurs portables soient de plus en plus populaires parce que justement c'est simple, on a un truc et puis on n'a pas besoin de s'embêter, donc le grand public préfère ça, enfin pourrait préférer ça. Par contre, là où je suis tout à fait conquis, c'est avec cet aspect customisation. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une vraie utilité pour certaines personnes, pas pour le très très grand public sans doute, mais pour certaines personnes qui sont un petit peu plus averties peut-être, au moins dans un premier temps, l'idée d'avoir un téléphone. Moi, je me dis par exemple, quand je vais au boulot, j'ai un tout petit, et puis si je pars un peu plus loin au week-end, j'ai un plus grand, etc. etc. Et avec je déplace mon module identité, il m'a un petit peu convaincu. Les annonces officielles arriveront d'ici un mois à peu près, avec le module Development Kit qui sera annoncé les 15 et 16 avril, et on aura des prototypes pour les développeurs dans les 12 mois à venir. Donc là, bon, c'est mon avis de sceptique qui est aujourd'hui plutôt séduit. Je reste prudent, mais je suis plutôt séduit. Cédric, toi qui es un expert de la téléphonie, comme je le disais, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire?
Ben moi, je suis plutôt convaincu. Et je l'étais déjà quand j'avais vu PhoneBlock. Enfin, l'idée me plaisait beaucoup. Mmh. Sauf qu'évidemment, PhoneBlock, on était sur du proto et il y avait plein de questions qu'on se posait, hein, sur comment on tenait les modules et ainsi de suite. Mmh. Là, on a des réponses techniques à toutes les problématiques quasiment que l'on se posait. Donc c'est plutôt encourageant. Et tu vois, par exemple, pour la diffusion de chaleur, le châssis est en métal. Donc, c'est un peu comme sur ton MacBook Air ou ton MacBook Pro. J'ai pas trop de...
Pas trop de non, moi ce que je pensais c'était la perte de chaleur, la perte, enfin de la diffusion d'électricité en fait. Si ça va pas consommer plus en fait.
C'est des micro-courants et tout ça. Je pense pas que ça soit vraiment une grosse problématique sur quelque chose à cette échelle là quoi. Par contre oui, moi la question que je me suis posée au début, c'est effectivement les économies d'échelle. Parce que bah il va y avoir des modules dans tous les sens, produits en quelle quantité, puis même le matériel en lui-même. C'est toujours compliqué, surtout qu'ils annoncent un prix à $50 et pour la version basique.
Oui, enfin, c'est juste un écran et du Wi-Fi. Hein,
oui, vraiment... mais d'accord, mais je veux dire $50, je trouvais que c'était pas très cher. C'est... Enfin, pour moi, c'est du prix coûtant quand même. Mmh. J'ai juste le prix sur lequel je suis sceptique. Après, je suis plutôt convaincu et j'aime beaucoup l'idée. Alors, tu vois, contrairement à toi, pas d'en avoir plusieurs, mais d'en avoir un. Et effectivement, tu le modules comme tu veux. Par exemple,
oui,
tu...
c'est ce que je voulais dire. Ouais.
Par exemple, tu pars, comme tu dis, hein, tu vas au boulot, t'as peut-être pas spécialement besoin d'avoir le module, je sais pas moi, le module GPS parce que tu vas, tu prends tes transports en commun et tu files au boulot. Par contre, t'aimerais bien avoir un gros module batterie, donc tu te mets un gros module batterie pour tous les appels que tu vas passer dans la journée et tout ça. Et puis en plus, rien ne t'empêche de les avoir dans la poche parce que c'est minuscule. Oui. Donc moi, j'aime bien cette idée-là, de se dire, mon téléphone n'est pas figé. Si demain j'ai envie d'un meilleur appareil photo ou d'un truc un peu différent, tu vois, un exemple tout bête, mais par exemple, à la maison, j'ai pas mal de domotique. Et si demain il y a un petit module Z-Wave, par exemple, qui me permet de piloter ma domotique, ou, tu vois, j'en sais rien, on peut imaginer tout et n'importe quoi.
Non mais t'as raison, c'est là que c'est le plus excitant, c'est que voilà, en fait n'importe qui peut créer des modules de la même manière que dans le domaine logiciel n'importe qui peut créer des apps.
Demain Fitbit veut lancer un module que tu mets dans ton téléphone, t'as pas besoin d'avoir un coprocesseur M7 dans ton appareil, t'as carrément un vrai Fitbit intégré parce que quand tu vois la taille par exemple du Fitbit Flex, c'est minuscule. Et encore, je suis sûr que ça pourrait être plus petit encore. Donc, tu mets ça dans un module que tu glisses dans ton téléphone, tu l'as là, ton coach de vie, tu vois. Donc,
ça ouvre des possibilités.
Mais voilà, moi en fait c'est ça. Surtout que je vois que ça va permettre tout un tas de choses et même des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Et j'aime beaucoup cet esprit un peu open source, qui est que demain avec une imprimante 3D, tu pourras refaire toutes les petites coques en plastique de tous tes modules pour te le personnaliser. J'aime beaucoup cette idée. Après effectivement, ça c'est pas à la portée de tout le monde et même à la limite, je dirais presque qu'ils ont 2 ou 3 ans d'avance parce que les imprimantes 3D réellement elles vont se démocratiser que dans 2 ou 3 ans, tu vois. Ouais. Là on commence à en avoir en vente sur des sites web, mais c'est encore pas ça, tu vois. Donc je pense que voilà, ils sont vraiment en avance. Les protos sont là dans les 12 mois. On va pas se l'acheter dès demain. Hein. Les mobiles du projet Ara seront pas disponibles dès demain, ça c'est clair. Il y en a au moins pour 1 ou 2 ans, et peut-être que même le projet sera abandonné parce qu'ils partiront sur tout à fait autre chose. Mais moi, je trouve que c'est peut-être une façon de bouleverser ce marché, en fait, d'apporter quelque chose de nouveau, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, tous les téléphones se ressemblent, les OS commencent à tous se ressembler. Et là, on a quelque chose d'un peu nouveau. Un téléphone personnalisable, t'en fais ce que tu veux. Potentiellement, tu peux le garder plus longtemps, tu vois, parce que c'est assez évolutif. Après, je sais pas ce que ça va donner en termes d'impact sur l'environnement avec tous ces petits modules que tu vas
a priori dessus, tu jettes pas ton l'idée de PhoneBlocks, c'est que tu gardes, c'était que tu gardais, donc voilà. Au contraire, c'était meilleur pour l'environnement. Bon, et toi, Jeff, alors t'es un petit peu moins peut-être aventureux en téléphonie mobile, on dirait. Tu ça t'intéresse, ça t'intrigue? Ah,
l'iPhone, sinon rien.
Ça, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Non, en fait, je pense que, comme vous le disiez, ce qui est super intéressant dans la modularité, c'est qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont pouvoir développer des extensions, qui vont pouvoir tester des choses. Donc, tout ce qui permet l'entrepreneuriat et l'innovation, moi, je suis pour. Cela dit, c'est clair que c'est une toute petite partie de la population qui voudra se trimballer avec un téléphone modulaire. Ah oui. Parce qu'in fine, quand tu regardes ce dont tu as besoin, tu disais, j'ai pas besoin de GPS. Bah, si, moi, j'ai ma fille qui se trimballe dans la vallée à l'école, machin. Je veux savoir où est je veux savoir où aller. Et par définition, c'est, tu veux le tout intégrer. D'ici à ce que ça fasse ombrage à l'iPhone, ça va prendre un peu de temps, mais j'adore l'idée, c'est super rigolo.
C'est ça, peut-être que le
et pour répondre à ton point en ce qui concerne Fitbit et le Flex, le problème c'est la pile, c'est la batterie.
Ah oui, mais là pourrais prendre sur la batterie du téléphone, en fait, ça a l'intérêt.
Peut-être.
Ouais. Ah oui. C'est ça, ça l'objectif. Là, tu as ton module Fitbit que tu glisses dans le téléphone et il est alimenté par la batterie du
Oui, c'est sûr.
Du Lara,
mais
quoi, voilà.
C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, quand tu recharges ton téléphone, c'est bon, il faut évidemment. Non, non, mais c'est sûr, ça peut. Enfin,
tu vois, demain.
Je crois que vraiment, la conclusion de cette histoire et de cette présentation, c'est que ça ouvre des possibilités. Et ils ont, comme tu le disais très bien, Cédric, répondu à une énorme partie, bon, allez, à toutes les questions que je me posais. De manière vraiment satisfaisante, ce système de d'aimant électro-permanent est génial. Il y a plein de réponses satisfaisantes et ils sont arrivés avec un intérêt que je ne voyais pas à l'origine, qui est pas celui qui avait été présenté par PhoneBlocks, c'est-à-dire qui est pas celui de faire durer ton téléphone à jamais, parce que bon, ça à la limite, moi je suis pas aussi convaincu, mais par contre l'intérêt de faire rentrer tout un tas de sociétés et d'innovateurs et de développeurs, peut-être même indépendants, dans cet écosystème de la téléphonie mobile, des fabricants de téléphonie mobile qui sont dominés, évidemment, par des énormes sociétés. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, hein, pas du tout, mais au contraire, ça peut faire rentrer d'autres personnes dans ce marché de la même manière que les développeurs indépendants sont arrivés en force sur le marché des apps.
Bah, demain, tu vois, tu pourrais imaginer que la RATP fasse un module Navigo.
Ouais.
Tu glisses ton, mais tu glisses ton module Navigo dans ton téléphone, et puis voilà, c'est bon,
c'est
t'as ton Navigo dans le téléphone. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais.
Ouais,
tu
et puis
peux
là, c'est des exemples qu'on donne parce qu'on imagine comme ça, on y pense vite fait,
ouais,
mais
voilà,
évidemment,
mais
ce genre de choses, c'est les trucs. Enfin, ça pourrait tout à fait ne rien donner aussi, hein, on sait pas,
bien
mais.
Bien sûr, voilà.
Mais c'est le suffisamment intrigant pour se dire ça pourra peut-être donner quelque chose, ça pourra peut-être rien donner, mais là il y a des choses intéressantes quoi.
Non, puis il y aura des applications à partir du moment où on aura la possibilité de faire ce genre de d'add-on, je pense qu'il y aura plein de nouvelles applications auxquelles on n'a pas forcément idée aujourd'hui parce que par définition on n'a pas cette capacité. Donc l'exemple du Navigo c'est un super exemple.
Ouais.
Et je pense qu'on en aura d'autres. Je crois pas forcément au Fitbit de la même façon que tu peux utiliser Moves aujourd'hui sur ton iPhone si tu veux pas avoir de Fitbit, puisque en gros l'accéléromètre de ton téléphone
ouais,
te
mais
permet
tu comptes
de
pas
capturer
les étages,
ton mouvement.
Tu comptes pas, tu vois.
Ah bah, t'as pas tout, mais l'idée c'est que le problème c'est quoi? C'est combien de devices tu vas devoir recharger chaque jour. Et c'est ça le problème. C'est que tes Fitbit, tu les recharges une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours. Et c'est ça, in fine, le problème. C'est qui est-ce qui va inventer une batterie à haute capacité qu'on ne recharge qu'une fois par semaine? Et je pense que le jour où on a ça, on aura vraiment d'autres possibilités.
Mais je pense que là, la manière dont le marché pourrait évoluer, c'est que d'un côté, il y a les solutions tout intégrées, qui sont assez austères mais qui intègrent ce dont la majeure partie des gens pourraient avoir besoin, mais une fois qu'il faut que ces besoins soient définis et donc ça a forcément un petit peu de retard. Par exemple, la mode des Fitbit et des Coach a commencé il y a peut-être un ou deux ans. Et ben sur ce type d'appareil modulaire, ça pourrait être immédiatement intégré.
Ouais, voilà,
donc il y aurait les trucs où il y aurait une sorte d'innovation bouillonnante avec ce type de module. Et puis d'un autre côté, une fois que les technologies sont prouvées et intégrées et utilisées vraiment de manière satisfaisante, elles sont intégrées par tous les constructeurs, que ça soit Apple ou d'autres, mais dans des modèles un petit peu plus compacts et intégrés, quoi. Bon, bref. En tout cas, intriguant et intéressant. Et je pensais pas dire ça d'un téléphone modulaire. Même si là, c'est pas tout à fait la même chose que ce dont on nous parlait avec PhoneBlocks à l'origine.
C'est vrai.
Oui, tu es d'accord, Cédric. Merci. Donc, cette histoire de Free, Bouygues, SFR, tout ça, personne n'y comprend rien, mais on va essayer d'en démêler quand même un petit peu les informations essentielles. On a appris ce dimanche 9 mars que Free allait racheter Bouygues. Mais en même temps, Bouygues veut racheter SFR et Numéricable aussi veut racheter SFR. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vous explique.
Et Orange dans tout ça?
Alors Orange, ils sont tranquilles de leur côté, mais ça a quand même à voir avec Orange aussi parce que Free a un contrat d'itinérance avec Orange. Donc tout le monde est mêlé dans l'histoire. En fait, vous savez certainement que Vivendi veut vendre SFR. Sur le départ, il y a Bouygues et Numéricable qui voudraient racheter SFR pour grossir et pour avoir notamment une offre sur l'Internet à la maison. sur Internet, Internet ADSL. Ce sur quoi ils sont pas forcément aussi forts qu'ils le voudraient. À côté de ça, Free a un accord avec Orange d'itinérance pour utiliser leurs antennes, mais ils voudraient bien avoir leur propre réseau. Ça, c'est des affaires qui tournent depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On a appris dimanche que Free était en train de négocier pour racheter le parc d'antennes et certaines fréquences de Bouygues Télécom. Et là, on se dit, mais attendez une seconde, Bouygues vend ses antennes à Free, mais du coup, ils se retrouvent avec quoi? Ils n'ont plus d'antennes? Eh ben non, parce que le deal ne se fait que si Bouygues réussit à racheter SFR. Du coup, Bouygues se retrouve avec toutes les antennes d'SFR et les abonnés de Bouygues et de SFR. Donc, ils ont beaucoup plus d'abonnés et ils ont un réseau d'antennes qui est comparable au leur aujourd'hui, puisque SFR et Bouygues, c'est pas exactement la même chose, mais ils ont à peu près le même type d'antenne. Donc, leurs antennes à eux font doublon et ils se disent, bon, bah, si on n'en a pas besoin, autant les revendre à Free. Donc, Free les rachète. Free se retrouve avec un réseau d'antennes hyper bien installé. Ils n'ont plus besoin d'Orange, ils n'ont plus besoin de l'itinérance. Et du coup, on se retrouve avec une situation où tout le monde a ce qu'il veut. Il y a une sorte de chaise musicale de différentes parties du business de la mobilité. Et tout le monde se retrouve avec ce qu'il veut au final en s'échangeant des morceaux de leur business. Ce qui est cohérent finalement. Tout le monde y gagne, sauf Numéricable qui d'ailleurs a dégringolé en bourse aujourd'hui. Mais tout le monde s'y retrouve avec ce montage un petit peu étrange, surtout que au final, ce deal ne se fait que si Bouygues réussit à acheter SFR. Évidemment, ils vont pas vendre leurs antennes à Free avant d'avoir récupéré celles de SFR. Mais si le deal se fait, Bouygues récupère 1,8 milliard d'euros en vendant son parc d'antennes à Free, ce qui leur permet de faire une offre plus solide pour le rachat de SFR.
Bah, ils ont proposé 14,5 milliards.
Ah ben voilà, c'est toi qui le.
C'est moins qu'un WhatsApp, hein, mais bon.
Mais oui, oh, ça c'est. Mais bon, donc voilà, c'est au final. J'espère que vous aurez un petit peu compris de quoi il s'agit. Enfin, c'était quand même hyper surprenant, Cédric. Tu me disais que tu commençais à entendre des rumeurs il y a quelques temps, mais
la semaine dernière, en fait, début de semaine dernière, déjà, ça commençait à bouger.
Ouais.
Puis ils ont annoncé, Bouygues a annoncé, je sais plus, c'était mardi ou mercredi, qu'il voulait racheter SFR. Et on sentait qu'il y avait une histoire avec Free qui se tramait parce que le discours était en train de changer vis-à-vis de Free. Puisque c'était le grand méchant et finalement aujourd'hui c'est bon, c'est toujours un méchant mais c'est presque un allié, tu vois.
Ouais, c'est là c'est vraiment pour les affaires, on commence à discuter plus sérieusement que quand on fait des petits coups de couteau dans les médias.
C'est ça, parce que chez Bouygues l'objectif, hein, il l'avait dit, hein, l'objectif pour nous c'est de faire dégringoler Free en bourse. Et quand ils avaient fait l'annonce de la DSL à 19,99, c'est un peu ce qui s'était passé. Free avait un peu diminué, surtout que les actionnaires de chez Free sont... Enfin, les actionnaires, c'est pas tellement les actionnaires, mais c'est plutôt les marchés chez Free sont. Enfin, le marché avait des exigences de Free qui étaient pas satisfaites, en fait, de ces derniers temps. Et donc, du coup.
Et d'ailleurs, Free a répondu à Bouygues, bien sûr, en offrant une triple Alice, play à 19,98 euros.
Ouais, avec engagement 12 mois. Alors que chez Bouygues, c'était sans engagement. Faut choisir.
Ouais.
l'offre est pas tout à fait comparable. Mais bon, c'est pas le débat de ce soir, mais bon, on voit bien qu'ils se tiraient dans les pattes et qu'aujourd'hui, ça devient presque des alliés. Alors, ce que dit, en gros, Bouygues, c'est que leur objectif, c'est de garantir l'emploi et les investissements. Alors.
Ouais.
Faut savoir que, c'est évidemment, il va y avoir des postes en doublon, donc il y aura beaucoup de licenciements, mais ce que dit Bouygues, c'est qu'en gros, ils vont faire tellement d'investissements, parce que le groupe ainsi créé aura la possibilité, enfin, ça représente quand même 2 milliards d'investissements par an possibles, suite à cette fusion-là. Donc, ça veut dire, dans la recherche, dans le développement et tout ça, donc c'est de la création d'emplois aussi, tu vois. Donc,
ouais,
ce qu'ils disent, en gros, c'est, on va peut-être perdre, je sais pas, moi, 5 000, 6 000 emplois, tu vois. Mais on va en créer 5 000 ou 6 000 à forte valeur ajoutée. C'est un peu ça leur discours, tu vois.
Ouais. Et ils veulent investir massivement dans la fibre en même temps. Il était temps.
Alors, faut savoir que Bouygues, par exemple, en fibre, a absolument rien du tout. Ils ont pas de réseau propre.
Ils passent beaucoup par SFR en main, d'ailleurs.
Voilà. Et du coup, c'est pas de la vraie fibre. Alors que SFR en a déjà. Et ce que dit Bouygues, c'est qu'en gros, normalement, ils avaient prévu d'investir 200 millions d'euros c'est des gros chiffres, hein, quand même, dans la fibre, et que bah, si le rachat se fait, ils pourront en investir 400 millions. Et ça, ça parle tout de suite à Fleur Pellerin et à tous les autres.
Qui d'ailleurs...
qui ont fait, de la fibre et de la connexion très haut débit un peu leur cheval de bataille, quoi.
Et d'ailleurs, tout à coup, maintenant, les quatre opérateurs, c'est nocif pour la... C'est pas une compétitivité saine. Et en fait, il vaut mieux qu'on revienne à trois.
Alors ça, ça pour moi, c'est
en même temps, tant que dans les trois il y a Free, moi je suis plutôt rassuré.
Ouais, mais alors ça veut rien dire, tu vois, parce que ok, Free, enfin aujourd'hui Free te dit ouais, nous on est là pour péter les prix et on va les emmerder. Mais qui te dit que ça durera tout le temps?
Ah bah ça on sait pas.
Parce que aujourd'hui ils ont pas de réseau d'antenne à entretenir. Enfin tu vois, ils ont 2 milliards qui payent par an, mais là ils vont commencer à avoir un réseau, à avoir des pannes réseau, à avoir un réseau à entretenir, donc des vrais investissements à faire. On ne sait pas si ça durera, tu vois. Peut-être
bien sûr.
Là, ils sont au prix plancher, ils n'iront pas plus bas. On n'en sait rien. Donc, pour moi,
non, mais c'est
beaucoup
sûr
mieux
que,
quand on était quatre.
Oui, je suis d'accord.
Et franchement,
c'est vrai.
Dire que... Ça, c'est Arnaud Montebourg qui ose dire que la concurrence par la destruction va cesser une fois qu'ils seront trois et que c'est beaucoup mieux une concurrence à trois qu'une concurrence à quatre. Enfin, il va falloir qu'il m'explique quand on enlève un acteur, comment
disons que c'est la course vers le bas, c'est la course vers le bas et qu'on y perd à d'autres endroits. Mais Jeff, par exemple, j'imagine que même le fait d'avoir trois choix, c'est quelque chose qui vous ferait rêver, vous, en Californie, où vous avez souvent qu'un seul FAI ou un ou deux à la limite, non?
En fonction de la technologie que tu utilises, tu as un peu plus de choix, surtout si tu es dans à San Francisco, où tu peux avoir de la fibre, tu peux avoir du satellitaire, tu peux avoir du microwave, tu peux avoir différentes solutions. Je pense que, étant, comme tu le disais Patrick, tant que Free est dans l'eau, je pense que on sait que le consommateur français s'y retrouvera, puisque c'est la philosophie de Xavier Niel depuis le début. Je sais pas en fait quelle était la marge qu'il se prenait l'aiguës de SFR sur les 2 milliards qu'il faisait, de Orange, sur les 2 milliards qu'il faisait payer à Free pour la location du réseau. Je veux dire, c'est une boîte qui est quand même bien foutue, qui gère des infrastructures depuis longtemps. Donc je vois pas pourquoi en fait il serait pas capable d'optimiser les choses prenant en marge
le
réseau.
Supplémentaire. C'est juste ça en fait.
Bah, ils vont avoir des coûts supplémentaires, mais dans les 2 milliards qu'ils payaient à Orange, tu crois pas qu'il y avait une marge brute que Orange se mettait dans la poche? Tu
bien
crois
sûr, qu'ils faisaient,
donc, c'est sûr, c'est sûr. Tu peux avoir, en fait, une possibilité de gagner, en qualité de service, en qualité de réseau, et pourquoi pas au niveau des prix. Donc, je pense que c'est assez intéressant que le marché français se réorganise comme ça, avec cette espèce de chaise musicale au niveau des towers, qui est assez rigolo. Et surtout, Montebourg, qui contre la Uber et la création destructrice, là trouve le moyen de changer son fusil d'épaule en disant non, c'est très bien. Donc c'est
il a retourné sa marinière, tu vois.
Oui, donc effectivement, on se retrouve. En gros, pour résumer,
si tu veux,
Bouygues
j'ai des chiffres
gagne.
Sur les antennes, par contre.
Ah bah si tu veux.
Bah en fait, juste pour comparer, parce que l'exemple typique, c'est tu vois, moi je suis client Bouygues par exemple, avec mon téléphone mobile. Et quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit, aïe, déjà, moi, je suis très, très content de la 4G Bouygues parce que c'est l'opérateur qui aujourd'hui en a le plus et je l'ai absolument partout.
Oui, d'ailleurs, il y a cette histoire de fréquence qui est pas très claire, hein, entre parenthèses. On sait pas si Free rachète aussi toutes les fréquences de Bouygues ou,
que certaines. D'accord. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que, c'est surtout les fréquences en 2600 que Bouygues va vendre à Free. Donc, les plus hautes fréquences, celles qui permettent d'avoir des meilleurs débits. Celle que Orange utilise essentiellement d'ailleurs. Bouygues va les vendre, pourquoi? Parce que ils en ont autant qu'SFR et elles sont situées à peu près au même endroit, donc ça sert un peu à rien de les garder. Et puis c'est celles qui se vendent le mieux. Celle en 1800 par contre, il y a que Bouygues qui en a, SFR en a zéro, et forcément puisque c'est suite au refarming, tu sais, des fréquences GSM classiques. Donc ils vont devoir leur en céder quelques-unes, mais pas tout. Donc du coup SFR va se retrouver. Enfin, le nouveau groupe va se retrouver avec des antennes en 800, en 1800, en 2600, et en plus avec des fréquences différentes, donc ils vont passer en 4G classe 4, donc des débits qui là aussi vont atteindre, en fait, les débits que proposait Orange, quoi. Le fameux 150 mégas, alors que les autres étaient qu'à 115, c'était uniquement pour ça,
lamentable.
T'imagines. Et donc du coup, bah, grâce à ça, ce groupe-là va bénéficier de ça. Alors, il faut savoir que les abonnés Bouygues ne seront pas perdants au change, hein, puisque en 2G, SFR avait quasiment 16 000 antennes, Bouygues en avait que 14 000, ouais, 2 000 d'écart, c'est pas mal déjà. En 3G, alors là, il y a un gros écart, puisque 3G et H+, SFR avait 16 000 antennes aussi, et Bouygues en avait à peine 12 000. Donc en fait, Bouygues a tout intérêt à céder son réseau, qui finalement couvre moins que le réseau SFR.
À en choisir un des deux, effectivement, c'est celui de SFR.
C'est évident. Et là où c'est fort, c'est que du coup sur la 4G, ils vont mutualiser ce qui a été créé et vont grâce à ça proposer des débits de malade. Et d'ailleurs, Bouygues a déjà annoncé qu'au mois de juin, ils allaient couvrir deux villes en LTEA, donc la 4G+ entre guillemets, qui elle fait du 300 mégas. Et je vais la tester d'ailleurs dès le mois de juin. Donc là aussi, pareil, tu vois, tu sens que Bouygues...
Ça bouge.
Ouais, depuis ces derniers mois, Bouygues en fait avait annoncé qu'ils croyaient encore au marché, même s'ils allaient mal, et qu'ils voulaient innover, qu'ils voulaient y aller, investir et tout ça. Mmh. Et on avait l'impression que c'était plus des effets d'annonce qu'autre chose. Là, en faisant ça, en fait, en gros, c'est un signal fort qui est quand même envoyé en disant, non, on veut pas se retirer du marché de la téléphonie. Ça fait longtemps qu'on dit que Bouygues, moi, quand j'étais encore chez Phonehouse, on en parlait déjà, que Bouygues allait peut-être se vendre ou disparaître parce que c'était pas rentable. Sauf que apparemment Martin Bouygues lui croit dur comme fer en la téléphonie mobile et au réseau. Et puis il pense aussi que ça peut lui rapporter beaucoup d'argent.
Et puis une autre chose, pardon, fini. C'est vrai.
Et non, et voilà. Et là, ça lui permet en gros de switcher de réseau. SFR avait fait beaucoup plus d'investissements réseau que Bouygues. Et en gros, ils vont se payer les clients plus les investissements réseau qu'on fait SFR. Donc c'est absolument c'est un bon gagnant coup, ouais. pour eux dans l'histoire, quoi.
Et en plus, une chose qu'on a évoquée mais qu'on n'a pas dit très clairement, la partie Internet ADSL est aussi un gros c'est élément énorme. Parce que ils peuvent du coup avoir un réseau très établi, SFR est vraiment bien en place, et du coup ils peuvent faire des offres double mobile et ADSL qui sont importantes aujourd'hui.
Ouais, et puis, du coup maintenant ils auront de la fibre optique s'ils rachètent SFR. SFR a un réseau de NRA qui est beaucoup plus important que celui de Bouygues, puisqu'en fait il couvre 23 millions de foyers le réseau ADSL de SFR, alors que celui de Bouygues n'en couvre que 13,9 millions. Il y a quasiment 10 millions de foyers de plus couverts grâce à ça. Donc pour eux c'est absolument gagnant, quoi.
Donc effectivement on se retrouve avec tout ce jeu de chaises musicales étranges avec tout le monde qui est content, quoi. C'est incroyable.
Ouais, sauf numéricable.
Sauf Numérica, bien sûr, les pauvres. Oui, c'est vraiment pas génial pour eux.
Est-ce qu'il y a eu des modèles de valorisation faits sur l'offre de 14 milliards? Est-ce que c'est vu comme étant bien pricé, trop cher, pas cher? Non,
alors c'est vu comme étant bien pricé. C'est-à-dire que c'est ce qu'en demandait Vivendi, et en gros c'était à ça que c'était valorisé. Et puis oui, ça vaut les 14,5 milliards parce que il y a pas que la téléphonie mobile. Il y a SFR, c'est beaucoup plus que uniquement la téléphonie mobile, hein, puisqu'il y a la DSL, la fibre et tout ça, mais il y a le service des entreprises, il y a vraiment énormément de choses. Et il y a aussi tout le réseau téléphonique SNCF qui passe par, qui a été racheté à l'époque par SFR. Donc du coup, quand vous prendrez le train et que si vous êtes abonné Bouygues, maintenant vous pourrez enfin téléphoner dans le TGV.
Enfin.
Ce que pouvaient faire les abonnés SFR d'ailleurs.
On a eu une assez longue discussion sur Google+, au sujet de toute cette histoire. Je remercie vraiment tous les gens qui y ont participé. Je mettrai le lien de la discussion Google+, dans les notes de l'émission. Et venez voir un petit peu tout ça. C'était vraiment intéressant. Donc merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui y ont participé et qui m'ont aussi aidé à y voir un petit peu plus clair. Évidemment, tout ça est soumis aux accords et aux approbations de l'État. Tout ça n'est pas fait. Hein.
Simon de Bourré est d'accord, ça va se faire.
C'est sûr.
Non, il y en a un qui n'est pas d'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Mince, j'ai oublié son nom. Celui qui est à la consommation et je ne sais plus, il a deux portefeuilles. Il est aussi à Bercy.
D'accord. Bon, écoute, ça te reviendra, tu nous dis quand on...
Bref, qui lui considère que c'est pas terrible parce que c'est les consommateurs qui vont se faire avoir dans l'histoire.
J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que c'est l'une des préoccupations.
Quoi. Mais lui, disons il est très à gauche comme ministre. Il est encore plus à gauche que Arnaud Montebourg.
Pour revenir à la question, est-ce qu'il en vaut mieux 3 ou 4? Je suis d'accord qu'il en vaut mieux, 4. Mais si on en a que 3, je préfère avoir Free plutôt que les 3 autres, on va dire. Free dans l'eau plutôt que les 3 autres tout seuls.
Oui, de toute façon, Orange, eux, ils sont très contents que ça se passe comme ça, parce que tant qu'ils restent à leurs 40 et quelques pourcents de part de marché et qu'ils dépassent pas les 50, ils sont contents, tu vois.
Oui, exactement. Oui.
Voilà, il faut pas qu'ils dépassent, sinon ils se font démanteler en plusieurs groupes. Donc.
Bon, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? Mais qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin? Alors, je vais résumer un petit peu, parce que il y a eu aussi l'histoire du créateur de Bitcoin démasqué qui est absolument passionnante, mais en gros... Ce qui s'est passé, c'est que le lieu d'échange principal, le service d'échange principal qui s'appelle Mt. Gox, pourrais vous faire un petit laïus sur l'origine du nom, mais pour le moment, on va dire Mt. Gox, a été hacké et s'est fait voler une partie de son portefeuille de Bitcoin. C'est-à-dire que les gens qui avaient des Bitcoins chez eux pour les vendre ou les acheter, leur portefeuille.
Le ministre.
Ah, Benoît Hamon, oui, bien sûr.
Économie solidaire et consommation.
Merci, Cédric.
Voilà, c'est la parenthèse.
Donc, ils se sont fait hacker et ils ont, enfin, en tout cas, il y a une dizaine de jours de ça, ils ont fermé le site et personne savait ce qui s'était passé. Le site était fermé, tous les gens qui avaient des bitcoins dans leur portefeuille chez Mt. Gox n'y avaient plus accès. Donc, les gens ont commencé à paniquer, il y avait des gens qui avaient quand même pas mal de sous chez eux. Les gens ont commencé à paniquer, à se demander ce qui se passait. La raison pour laquelle ça a tellement enflé, c'est que les responsables de Mt. Gox n'ont absolument pas communiqué sur la chose pendant plusieurs jours. Ils ont juste fermé le site et c'est tout. Et on a appris ensuite qu'ils s'étaient effectivement fait hacker et voler à cause d'une vulnérabilité dans leur système. Enfin, il y a eu un combat entre les responsables de Bitcoin et les responsables de Mt. Gox pour dire non, c'était dans le système de Mt. Gox ou non, c'était dans les spécifications de Bitcoin que la faille existait. Au final, c'est a priori plutôt chez Mt. Gox spécifiquement. Donc, ils ont admis qu'il y avait eu ce problème et qu'ils se sont fait voler quelques millions de dollars de Bitcoin. Et ils ont, en quelques jours, présenté leurs excuses publiques au Japon, parce que c'est une société japonaise, Mt. Gox. Et ils ont fermé, enfin, file for bankruptcy. Donc, ils se sont mis en banqueroute. Et entre-temps, entre tous ces moments, il y a eu aussi d'autres sociétés qui ont eu des problèmes avec Bitcoin et qui ont dû fermer, comme Flexcoin, par exemple, aussi après un hack. Et évidemment, donc, ça a généré tout un tas de spéculations et de jugements sur Bitcoin. Alors voilà, Bitcoin, ça sert à rien, c'est de l'implosion, ça montre bien que c'était spéculatif, ça montre bien que ceci, cela. Le Japon a commencé à dire on va réguler Bitcoin et on va le taxer comme l'or ou les gains de capitaux à 8%, ce qui veut dire que l'utilisation de Bitcoin serait complètement transformée, etc., etc. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées qui font que il y a eu beaucoup de bruit autour de Bitcoin et des gens qui pensaient que Bitcoin soit c'était fini, soit on sait pas trop ce qui se passe en fait. Il y a même des sénateurs américains qui ont dit il faut bannir Bitcoin et un sénateur américain. Alors, avant de vous repasser la parole, vous savez quoi? Je vais vous demander ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez du statut de Bitcoin avant de donner mon avis à moi, pour changer? Commençons par Jeff, qui est investi dans les questions financières des grands de ce monde.
Alors, j'ai vendu 80% de mes Bitcoins.
Ah, tu en avais?
Bah oui, quand même.
Ah, d'accord.
C'était pas des gros montants, mais effectivement, je pense qu'on est dans une période un peu troublée. Dollars, quoi. Je ne commenterai pas sur le sujet. Moins que ça. Donc, on est dans une période un peu troublée de Bitcoin. Et bon, objectivement, comme j'avais fait quand même pas mal de profits sur le papier, j'ai préféré en fait vendre une partie de ma position de manière à voir un peu comment ça se goupille. Fondamentalement, je crois toujours dans la fiabilité à terme des cryptocurrencies. Est-ce que c'est Bitcoin ou c'est dérivé, on verra, mais en tout cas c'est pas le genre de chose qui va disparaître. C'est clair depuis le début que Mt. Gox était l'exchange le plus faible de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la dans l'économie Bitcoin, puisque tout le monde sait que c'était, enfin en tout cas les gens qui travaillent sur Bitcoin savaient que c'était une solution très très faible techniquement.
Oui, techniquement, mais c'était quand même le plus gros au niveau volume, hein.
C'était le plus gros parce que c'était aussi le plus, c'était un des plus anciens, c'était ça faisait très très longtemps qu'il existait. Il avait été aussi utilisé à l'époque par Silk Road. Donc il y a des raisons pour lesquelles des gens continuaient à trader sur Mt. Gox, mais après avoir parlé avec le fondateur d'un autre exchange qui s'appelle Kraken, Jesse qui est un des Gus qui a travaillé sur Bitcoin et son infrastructure technique depuis très longtemps, m'a toujours dit que c'était franchement super fragile et que c'était même étonnant qu'il n'y ait pas eu des hacks d'envergure plus importants. Bon, il se trouve qu'il
a eu
raison.
On a entendu très vite après ça beaucoup de gens de voix s'élever pour dire que l'infrastructure technique de Mt. Gox était vraiment vraiment pas solide du tout, quoi. C'était du code fait n'importe comment, des petits morceaux rajoutés à droite à gauche.
Et donc un des problèmes, tu disais ils ont été hackés, c'est vrai, mais surtout ils avaient des bugs dans leur protocole. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des hackers qui ont soumis des blockchains de façon répétitive. Et en fait, Mt. Gox s'est retrouvé à payer plusieurs fois pour les mêmes transactions. Donc clairement Mt. Gox devait disparaître parce que c'était le maillon faible, et puis bon bah malheureusement ils ont perdu quelque chose comme $500 millions pour des vrais utilisateurs, des gens qui avaient des bitcoins chez eux. Et donc il y a eu des on a vu en fait une nana qui était CEO d'une autre boîte de bitcoin qui soi-disant s'est suicidée à Singapour, ce qui évidemment est extrêmement triste. Il y a plein de gens qui ont perdu plein d'argent sur le papier, parce qu'on sait pas si ça faisait longtemps qu'ils avaient ces bitcoins ou s'ils venaient juste de les acheter, mais en tout cas c'était le maillon faible, et le maillon faible devait disparaître. Donc est-ce que ça veut dire que Bitcoin est fini? Non. Je pense qu'il y a plein de développements aujourd'hui dans l'économie Bitcoin. Il y a une conférence, je crois, dans 15 jours à San Francisco sur Bitcoin pendant 2 jours. Et je vais en fait être le modérateur de l'activité, enfin du panel des investisseurs, donc des gens qui ont investi beaucoup dans le Bitcoin, et on verra un peu ce qu'ils racontent. Pour le moment, nous, on est encore vierge. On a fait aucun investissement.
Mais c'est
pas pour autant. Oui.
Ça n'a pas fait peur, c'est un bon baromètre, ça n'a pas fait peur aux investisseurs. Ils sont en train de se dire, oula, Bitcoin ça pue, en fait, je retire mes billes, quoi.
Bah écoute, c'est une des questions que je poserais, parce que clairement, les différentes boîtes qui ont reçu du financement, que ce soit Bitstamp, que ce soit Coinbase, qui est le gros service américain, ils viennent juste de dire qu'ils avaient 1 million de comptes. Donc il y a 1 million de consommateurs américains qui ont ouvert un compte chez Coinbase de manière à acheter du Bitcoin.
Bon, c'est énorme.
Ça veut dire que
ça commence à compter,
beaucoup.
Quoi. C'est pas un
c'est
truc.
C'est pas encore énorme.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc de marge qui est utilisé par 3 hackers pour acheter de la drogue sur Silk Road. Tu vois, ça commence à devenir un petit peu plus grand public.
Bah ça commence à être, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tout le monde entend parler de Bitcoin, 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 et c'est vrai que si tu prenais un shot à chaque fois que tu as entendu Bitcoin sur la semaine passée, tu serais complètement mort, ouais. Parce que ça n'a pas arrêté, entre Mt. Gox et notre grand ami Dorian Satoshi Nakamoto, dont on va parler dans 2 minutes, mais je pense que donc le spéculateur se dit, ah bah de toute façon j'ai besoin d'être sur du Bitcoin, parce que c'est un peu comme tout, c'est une commodité, hein, et donc comme il y a une très forte volatilité, il y a possibilité de prendre une position sur le marché. Le problème que tu as, c'est que jusqu'à ce que Kraken se déploie de façon commerciale,
jusqu'à ce que le Kraken se déploie, ça pourrait
c'est
faire
génial.
Un titre d'épisode.
C'est un super nom. C'est un super nom. Ne serait-ce que pour le nom, bon, je sais pas la raison pour laquelle on a regardé à potentiellement investir, on a passé, mais quand tu dis release the Kraken, c'est quand même quelque chose.
Oui, c'est ça, oui, exactement.
Et donc, aujourd'hui,
if you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec Coinbase, le problème, c'est que tu peux pas trader. Tu peux juste dire, je veux acheter du Bitcoin et tu me le mets dans mon wallet, donc dans mon portefeuille électronique. Mais tu peux pas vraiment trader. Tu peux pas dire, je veux acheter du Bitcoin à tel prix, je veux vendre du Bitcoin à tel prix. Tu peux pas faire un peu de
spéculation, quoi.
De spéculation.
Mais, Cédric, oui, pardon.
Pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même beaucoup de gens qui se disent, ah bah, faut quand même que j'achète un peu de Bitcoin, il faut que je le comprenne. Et donc, c'est ça, t'as la curiosité, du marché américain. Et effectivement, tu peux te dire, 1 million de comptes. Bon, ils disent pas combien de comptes, ont fait des transactions, d'accord? Ils ont simplement dit, ouais, on a 1 million de
comptes.
Qui
existent, quoi.
Qui existent. Donc, ça veut dire que t'as des gens qui entendent parler de Bitcoin et qui vont essayer. Et donc, ça veut dire que c'est pas encore un phénomène de masse, mais on a dépassé les early adopters. On est dans l'early majority.
Ouais. D'accord. Cédric, toi, tu es inquiété pour la communauté Bitcoin par toutes ces catastrophes entre Mt. Gox et les autres des deux dernières semaines?
Alors moi, personnellement, je m'inquiète, mais alors absolument pas, parce que ça me passe à des années-lumière au-dessus de la tête. Non, en fait, pour tout te dire, là, ça fait un petit moment que je regarde ça de loin, et je me dis, il va vraiment falloir que je m'intéresse au Bitcoin et tout ça. En fait, pour moi, c'est de la science-fiction, ouais, mais c'est presque ça, en fait. La création d'une monnaie, la création d'un truc qui est... Je sais pas comment expliquer ça, mais on est dans...
Abstrait, hein.
Non, mais complètement. Mais pour moi, on a changé de dimension, quoi. Le jour où on a dit, bah tiens, on va créer une monnaie virtuelle, enfin qui en plus est pas si virtuelle que ça, hein. Ouais. Que les choses soient claires, parce
oui,
que
oui,
c'est
des fichiers.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Entre parenthèses, tiens, j'en profite pour dire que je me suis fait engueuler sur Twitter pour le dernier épisode parce que j'ai pas arrêté de dire crypté. En fait, c'est chiffré. Oui, je suis désolé, je le sais. On m'engueule à chaque fois. Je sais que c'est du chiffrage et pas du cryptage. Je suis désolé. Il faut que j'arrête cet anglicisme. Et comme un bon grammaire nazi qui font comme un faucon sur les gens qui font des fautes de grammaire, je m'auto-flagelle et j'accepte la flagellation que vous m'infligez, le chiffrage et pas le cryptage. Pardon, continue Cédric.
Non voilà, mais bon, pour tout dire, moi ça me passe un peu au-dessus. C'est moche à dire, mais j'aime pas la spéculation. Pour moi, c'est...
Mais c'est même pas qu'une question... Je t'interromps, Pardon, fini, mais après je veux ajouter quelque chose.
Je sais bien, mais si tu veux, on entend parler de Bitcoin essentiellement par des mecs qui se sont fait des millions de dollars en spéculant.
C'est le côté sexy, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un État. C'est faire pour l'argent ce qui a été fait pour l'information par Internet.
Exactement.
Donc c'est une monnaie décentralisée, contrôlée par personne, etc., etc. Mm-hmm. Mais bon, moi je dirais que effectivement,
juste dans la série Almost Human, il paie en Bitcoin. Hein, tu
vois, oui, tout à fait. Mais c'est pas, enfin, c'est vraiment. On va appeler ça Bitcoin
avec des clés USB.
Ouais. C'est ça, ouais, les clés. Bah, en même temps, ça pourrait finir comme ça.
Bah, bien sûr.
Mais moi, je m'aligne un petit peu sur l'analyse de Jeff, c'est-à-dire que c'est au contraire, c'est presque une validation de Bitcoin. C'est-à-dire que il y a un début chaotique, hein, les monnaies quand elles ont commencé, bah la monnaie telle qu'on l'utilise aujourd'hui, elle a quelques milliers voire dizaines de milliers d'années, quand on parle de s'échanger des petits morceaux de trucs, la monnaie avec de la monnaie à la confiance, c'est-à-dire des morceaux de papier qui représentent de la valeur, bah c'est un petit peu plus âgé que le Bitcoin aussi. Là le Bitcoin c'est des débuts chaotiques, un petit peu de problèmes, mais par contre ça veut pas dire dire du tout que ça va disparaître. Peut-être que ça va disparaître, mais c'est pas ces problèmes-là qui le montrent. Au contraire, je dirais que là, ce qui s'est passé, c'est les premiers casses de Bitcoin. De la même manière qu'on peut rentrer dans une banque voler l'or qu'ils ont dans leur coffre il y a quelque temps, et ben là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand une banque se fait dévaliser, on va pas dire « Ah, mais regardez, l'argent, c'est n'importe quoi, ça va se casser la gueule. » On dit juste que la banque, voilà. On dit juste que la banque s'est faite voler, qu'elle avait pas assez de sécurité. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc,
Sauf qu'il y avait pas d'assurance.
Sauf qu'il n'y avait pas d'assurance, bien sûr, mais pour aller faire assurer tes bitcoins, bon courage. Ouais. Enfin bref, donc, il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, ça y est, bitcoin, qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. » En fait, je pense que c'est simplement le premier casse.
C'est l'épuration aussi des branquignoles, tu vois. Voilà.
Et oui, exactement. Mt. Gox, c'était un peu les branquignoles. Ouais.
Non, bon. C'est ça. Et en fait, je pense que c'était vraiment nécessaire que Mt. Gox disparaisse. Bon, malheureusement, ça s'est fait dans des circonstances assez tragiques, puisqu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent et éventuellement, il y a eu des suicides qui sont suivis. Mais clairement, l'écosystème Bitcoin ne pouvait pas avoir un maillon faible aussi clair que Mt. Gox, et malheureusement c'était encore celui qui était le plus utilisé. Et je pense que j'ai pas de preuves, mais je pense pas que ce soit des gens super sophistiqués qui étaient encore en train de trader sur Mt. Gox, quoi. Parce que
les gens qui savaient en fait étaient déjà partis ailleurs.
Oui. Alors par contre, le truc que tu dis qui est juste, c'est que c'est le premier casse dans cette banque virtuelle. Le problème, c'est que quand tu vas casser une banque, typiquement, tu vas récupérer les usernames, les passwords, etc. Alors que là, tu récupères le cash, quoi, parce que le cash était électronique. Et effectivement, il y a eu plusieurs, parce que c'est pas les seuls à s'être fait hacker. Il y a eu plusieurs systèmes de, enfin, des vols qui ont été faits de Bitcoin. Et c'est clairement un des gros problèmes avec cette monnaie électronique, c'est que comme la plupart des sites ne sont pas 100% sécurisés et qu'il y a énormément d'argent en jeu, je sais pas parce que je suis pas investisseur. On avait regardé Coinbase il y a très très longtemps et on avait passé parce que c'était il y a 2 ans justement au moment où il se lançait. Et je pense qu'aujourd'hui les mecs de Coinbase passent jour et nuit à essayer de sécuriser les wallets parce que le jour où ils se font hacker et que quelques-uns de leurs utilisateurs perdent leur argent, c'est fini pour eux, quoi.
Moi, je voulais dire, quand je dis le casse, c'est genre Far West, on sort les pistolets et puis c'est bang bang pour voler les lingots d'or, tu vois, c'était ce genre de casse.
C'est ce qu'ils ont fait, simplement, ils sont passés par la petite porte électronique plutôt que la porte d'entrée, quoi. Ouais.
Bon, deuxième partie de ce... C'est bon, Jeff, t'es encore 5 minutes ? Ou tu dois y aller. Ok, bon, donc on va très vite. Satoshi Nakamoto, donc le mystérieux créateur de Bitcoin, c'est une figure un petit peu fantomatique, étrange, indéfinie, dont personne ne connaissait la véritable identité. On savait pas si c'était une personne ou un groupe de personnes, même. Il avait disparu, il avait arrêté son activité sur les forums de discussion et les forums de construction de la technologie Bitcoin il y a plusieurs années de ça. Eh bien, Newsweek, pour son relancement en journal papier, c'est important de le savoir, hein, parce que c'était un moment où ils avaient besoin de frapper fort, ils ont annoncé avoir découvert le nom et l'identité de ce fameux Satoshi Nakamoto. Il y a une jeune femme qui s'appelait Léa... je vais oublier son nom. Léa... Oh, c'est terrible. Je me souviendrai de son nom plus tard. Bref, une journaliste vétérante qui est vraiment une journaliste classique qui fait des enquêtes sérieuses, qui a publié ce papier, qui a écrit ce papier en disant qu'elle avait fait une enquête assez longue et qu'elle avait découvert un homme qui s'appelle Dorian Satoshi Nakamoto, qui s'appelait Satoshi, qui a changé de nom il y a quelque temps pour se prénommer Dorian. Et elle a fait une enquête assez longue où elle avait parlé à des membres de sa famille, ses frères, ses enfants, et elle l'a retrouvé en fait en regardant les papiers, les archives de la naturalisation qui sont publics, hein, qui sont publiquement accessibles. Oui, c'est Léa McGrath Goodman, voilà. J'ai son nom, comme ça je lui fais justice. Léa McGrath Goodman. Donc elle l'a retrouvée. Elle avait regardé beaucoup d'autres personnes, mais elle s'était arrêtée sur lui plus spécifiquement. Et je ne sais pas si vous avez lu le papier, mais les témoignages de sa famille, de la famille donc de Dorian Satoshi Nakamoto, donc Dorian Sakamoto. Pardon, je dis Sakamoto à chaque fois, c'est Nakamoto. Donc la famille ont dressé un portrait assez étrange de ce monsieur Nakamoto. Ils disent oui, c'est un type qui est profondément anti-gouvernement, qui a travaillé dans des domaines techniques, c'est un ingénieur informatique qui a travaillé pour le gouvernement pour des choses classées secret défense, mais en fait c'est vraiment un sale con. Ils disent les choses comme ça, hein. C'est vraiment un sale con, il vous répondra jamais, il n'admettra jamais avoir créé Bitcoin si c'est lui qui l'a fait. Enfin, il y a tout un tas de faits et d'interviews assez intéressantes dont elle parle dans son papier. Et ensuite, elle est même allée voir Nakamoto. Elle est allée sonner à sa porte. Et lui, il a appelé le shérif. Donc, il n'a pas voulu lui parler avant d'avoir des shérifs présents. Finalement, les shérifs sont arrivés. Elle est venue lui parler. Et il lui aurait dit, je ne suis plus impliqué dans ce truc-là. C'est d'autres personnes qui s'en occupent. Moi, j'ai plus rien à voir avec ça. En gros, hein, c'est la citation essentiel qui, selon certains, prouverait que c'est vraiment lui. Parce que ensuite, il a dit « Pas du tout, c'est pas moi, je sais pas de quoi vous parlez. J'ai appris que ce qu'étaient les bitcoins il y a 3 semaines seulement quand mon fils ou mon frère m'a dit que vous lui aviez parlé. Donc, j'ai aucune idée de quoi vous parlez, de ce dont vous parlez. Je veux rien avoir avec ça, c'est pas moi. » Et le problème, c'est que les shérifs ont confirmé la version de la journaliste, c'est-à-dire selon laquelle il aurait dit « Je n'ai plus rien à voir avec ça, c'est d'autres personnes qui s'en occupent. » Mais lui, Nakamoto, a dit « En fait, ça a été mal compris, c'est pas de ça que je parlais, je disais que je ne fais plus d'informatique et que je ne suis plus ingénieur. » Et effectivement, il n'a plus de travail depuis le début des années 2000, ce qui accessoirement correspondrait à la période où le vrai Nakamoto aurait commencé à travailler sur Bitcoin. Donc ça confirme, ça pourrait donner des éléments pour confirmer que c'est bien lui. Donc il dit je ne fais plus de trucs d'ingénieur depuis bien longtemps, et en plus je peux pas en parler, c'était des trucs classés. Donc il y a deux interprétations de ce qu'il a dit, et donc on se retrouve dans une situation où c'est moi je dis qu'il a dit ça, lui il dit qu'il a dit ça, et ben on ne peut que croire certaines personnes. Enfin, on peut que choisir qui on peut croire. D'un autre côté, le compte endormi de Nakamoto sur les forums de Bitcoin s'est réveillé pour dire « Je ne suis pas Dorian Sakamoto ». Juste une phrase comme ça. Donc ça pourrait... Mais ça, si c'est lui, ça pourrait être lui qui a réveillé son compte pour dire ça. Bref, tout un imbroglio incroyable. Il y a un journaliste qui s'appelle Félix Salmon qui a très bien résumé la chose. Il a écrit chez Reuters The Satoshi Paradox. Je pourrais mettre le lien là aussi dans les notes de l'émission. En fait, ce qu'il a dit, c'est que le paradoxe, c'est que il y a trop de coïncidences pour que ça ne soit pas lui, et en même temps, il y a trop de coïncidences pour que ça soit lui. Donc, en fait, quand on regarde toute cette histoire en se disant « bah oui, c'est lui », on se dit « ah mais oui, mais il y a ça, ça, ça et ça qui se passe, donc oui, ça doit être lui ». Et en même temps, si on se dit « c'est pas lui », on regarde la même histoire et on se dit « bah il y a ça, ça, ça et ça, donc oui, ça peut pas être lui ». Et notamment, une des choses très importantes sur laquelle appuient énormément de gens aujourd'hui, c'est le fait que la manière dont il écrit et la manière dont il code, ce Dorian Nakamoto, n'est pas aussi propre et net que le code de Bitcoin. Donc les experts geeks disent ça peut pas être lui, parce que c'est comme essayer d'analyser le style de quelqu'un quand il écrit, quand il y a je sais pas, qu'on essaye de savoir si quelqu'un a copié quelqu'un d'autre ou si quelqu'un a vraiment écrit un livre. Bah on peut le voir aussi dans le code, et là tout le monde est d'accord, tout le monde dit c'est pas du tout la même personne qui a écrit le code. Donc voilà, il y a, et accessoirement il y a encore tout un autre débat qui est que évidemment la journaliste a été accusée d'avoir doxé Dorian Nakamoto, c'est-à-dire d'avoir fourni les informations, les documents sur une personne et de les avoir rendus publics, alors que lui n'avait rien demandé à personne et qu'il voulait être anonyme a priori, parce que lui-même Dorian Nakamoto, il veut rester tranquille dans son coin. Et donc il y a beaucoup de haine contre la fameuse Léa McGrath.
Ils ont hacké son compte Bitcoin.
Et en plus, et il y a des menaces, elle a reçu des menaces, etc. Donc voilà, une sorte d'imbroglio que j'ai essayé de résumer tant bien que mal, mais c'est pas si facile que ça. J'espère que ça a été assez clair. Qu'est-ce qu'on en a eu comme écho? J'imagine que tout le monde en parlait dans la Silicon Valley, Jeff, ces derniers jours.
Ouais, disons que quand Newsweek, parce que il faut quand même recadrer les choses sur le fait que c'était la grosse histoire de Newsweek qui ressortait en kiosque, puisque ça faisait à peu près 18 mois qu'ils avaient interrompu leur impression, donc ils étaient essentiellement online, et donc c'était franchement la grosse histoire sur laquelle ils travaillaient depuis 2-3 mois de manière à avoir quelque chose qui allait faire vendre en gros le magazine. Et donc quand on a vu passer ça, on s'est dit bah tiens c'est intéressant, et puis on lit ah bah voilà, donc Satoshi Nakamoto c'est quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Déjà ouais, ah non, il s'appelle Dorian Satoshi Nakamoto. Bon, tu lis l'article et effectivement la nana qui est quand même une journaliste réputée, elle a fait un certain travail d'élimination. Bon, il y a eu beaucoup de discussions depuis, parce que il y a des gens qui l'ont accusé en fait d'avoir fabriqué toute cette histoire. Clairement, ce qui est pas compréhensible, c'est les positions de la famille, surtout son frangin Arthur. Et il y a même pas une demi-heure un article sur TechCrunch qui dit que Arthur Nakamoto n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il voulait dire et qu'il regrettait, et que c'est pas vraiment ce qu'il il savait pas si c'était son frère qui était l'inventeur de Bitcoin, donc il est en train de rétro-pédaler. Et puis il y a cette espèce de statement que lui a fait qui était complètement bizarre, qui était en gros je ne m'en occupe plus, il y a d'autres personnes qui sont en charge. Mais si tu prends ça dans son analyse à lui, qui est je ne fais plus d'informatique, je suis en dehors de ça, puisque lui dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Bitcoin jusqu'il y a 3 semaines, ouais. Effectivement tu t'aperçois qu'il y a des incompréhensions qui sont vraiment bizarres, mais d'un autre côté si c'est un mec qui est un peu en dehors du phénomène Bitcoin, puis bon il est plus tout jeune, etc., tu peux te dire que c'est pas complètement invraisemblable que ce soit juste une incompréhension qui a été montée en épingle. Et donc ma position, après avoir lu un peu à droite et à gauche la thèse et l'antithèse, je pense pas que ce soit lui.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a d'ailleurs là encore un très bon papier de Félix Salmon qui explique avoir parlé avec Léa McGrath, où elle lui dit « Moi, je suis journaliste ». C'est vraiment la confrontation entre deux mondes, le monde du pardon, on t'entend vachement respirer, Jeff.
Pardon.
c'est vraiment la confrontation entre deux mondes. Elle, c'est une journaliste classique qui a fait son travail d'investigation et qui dit, quand même, le Newsweek, c'est pas n'importe quoi. Moi, je suis une journaliste réputée. Si je dis que l'histoire est vraie et que je suis derrière cette histoire, ils ont confirmé, hein, ils ont pas fait de rétractation. On devrait pouvoir nous faire au moins un peu confiance. Et en même temps, ce qu'elle dit, c'est que en lisant l'histoire elle-même. Si, parce qu'elle a encore des informations qu'elle ne veut pas livrer, parce qu'il y a quand même des choses qu'elle doit garder pour
le numéro 2.
Pour le numéro 2. Non, mais c'est même pas ça. C'est que il y a certaines informations qu'elle va pas tout révéler, parce que c'est pas à elle de tout révéler. Ou enfin bref, elle dit quand je lis l'histoire en l'état, moi-même je serais pas convaincu. Donc elle demande à ce qu'on lui fasse confiance, mais en même temps sur une histoire comme ça. Il est pas. Le problème, c'est que Newsweek a dit, on sait qui c'est, on est sûr, on a des preuves irréfutables. En gros, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Et quand on lit l'histoire, on n'est pas sûr. On n'a pas de preuves irréfutables. On a de grosses indications.
Non, mais eux les ont. Ils n'ont pas dit qu'ils te les donnaient, tu vois. C'est pas pareil.
Ah, d'accord, d'accord. Alors toi, justement, t'en penses quoi, Cédric?
Franchement,
t'en fous. D'accord.
On s'en fout. Non, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui a créé Bitcoin, quoi. Je veux dire, en quoi ça va changer fondamentalement les choses, quoi.
Bah, c'est la voie de la sagesse, peut-être. Ouais.
Ouais. À part que lui va peut-être se faire emmerder et pourquoi pas se faire enlever par une mafia qui va lui demander de déchiffrer
le chiffrage.
Mais
C'est marrant parce que il disait même, visiblement, il racontait que quand sa fille était petite, enfin la fille racontait ça, elle disait quand j'étais petite, mon père me disait ah voilà, va te cacher, il y a les agences du gouvernement qui vont venir te chercher, va te cacher, va te cacher. Et ils jouaient comme ça ensemble, le père et le fils. Donc c'est vraiment un personnage particulier, tu vois. Bon bref.
Et c'est pour ça, je pense qu'ils se sont dit c'est pas forcément 100% sûr, mais il y a quand même cet ensemble de circonstances qui sont un peu bizarres.
Il y a des faisceaux qui font que
ça peut être lui, mais clairement.
Ouais, mais fondamentalement, ça change quelque chose que ce soit lui ou pas.
Pour le pauvre Gus qui se retrouve maintenant avec la moitié de la presse américaine aux fesses, avec des paparazzis, etc.
Pour les autres.
Pour lui, si c'est pas lui, il faut vraiment qu'on le laisse tranquille, quoi. Parce que franchement, ça fait une semaine que sa vie c'est un cauchemar.
Mais en plus, là, c'est fini, sa vie sera un cauchemar.
Nakamoto alone.
Mais ce que dit Cédric finalement, c'est même si c'est lui, imaginons que ça soit lui, est-ce qu'on s'en fout pas en fait?
Bah, on s'en fout. Alors, il y a deux choses. Un, c'est pour le Gus qui est, enfin déjà je pense à lui, c'est-à-dire qu'il a sur le papier entre, je crois 500 millions de dollars ou un milliard de dollars en Bitcoin qui n'ont jamais été en circulation, qui sont des Bitcoins originaux, et à un moment ou un autre t'as forcément un mafieux quelconque qui va essayer de lui faire crasher, donc le Gus il est quand même un peu en risque, faut pas l'oublier. Deuxième chose,
entre parenthèses, il habite dans une maison toute pourrie et c'est l'un des trucs étranges, mais certains disent qu'il a peut-être perdu les Bitcoins ou la clé pour récupérer les Bitcoins, mais oui tout à fait. Et entre parenthèses, l'un des moyens très simples de prouver que quelqu'un est ou n'est pas Nakamoto, ça serait d'envoyer un message avec sa clé à lui et sa clé de chiffre. Et ça pourrait très simplement prouver que, enfin non, à vrai dire, ça pourrait pas prouver parce que lui, il pourrait le faire en prétendant être quelqu'un d'autre.
Ben voilà.
mais le truc, c'est et pourquoi est-ce que on voudrait savoir qui est Satoshi Nakamoto? C'est parce que ça fait partie en fait de ce côté fantomas de Bitcoin. Et si on savait en fait quel est l'instigateur et qu'on puisse voir qui c'est, je pense que ça aiderait quelque part à crédibiliser cette crypto-cure.
Ouais, enfin, quand tu vois le personnage, je suis pas certain que ça crédibilise quelque chose.
C'est pas faux, oui, c'est pas faux. J'aime bien le côté fantôme.
Mais c'est ce que je dis, c'est pas lui. C'est pas lui.
On sait pas, ouais. Mais
tu essaies de te convaincre, mais pareil, c'est lui, hein, tu sais pas.
Ouais, on sait pas. Bon, bref. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de cette histoire Bitcoin et de Satoshi Nakamoto. Donc, on va très rapidement prendre 2 minutes pour remercier encore des gens qui contribuent avec des dollars sonnants et trébuchants et pas des Bitcoins au Rendez-vous Tech. Donc, je remercie chaleureusement du fond du cœur Poder, Antoine Decouvalaer, j'espère que je prononce bien, Decouvalaer, François, Yoda, alias David, QNX Monkey, Antoine Galluet, Mr. Clem, Van 38, Gaël Baldi et Florian Constant. Merci à vous tous de contribuer au Rendez-vous Tech sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Vous le savez maintenant, il y a un Patreon qui est un système de financement participatif sur la durée, c'est-à-dire que les gens peuvent contribuer à 1, 2, 3 dollars, ce qu'ils veulent sur Patreon. Patreon.com
2-3 bitcoins
par exemple. Les bitcoins ça vaut un peu plus, mais donc c'est par épisode. C'est par épisode et on a dépassé les $800 par épisode, donc c'est invraisemblable. Il y a plus de 270 personnes qui donnent des sous, je vous remercierai jamais assez. Entre parenthèses, on a fait le fameux question-réponse il y a une semaine de ça, le question-réponse où ça a duré 1h30, où j'ai répondu à plein de questions que m'ont posé des gens qui étaient venus en direct sur le Hangout. Ça a vraiment été super sympa et presque cathartique pour moi de parler de tout ça. Je noterai juste une question de Jonathan de VoyageCast, qui m'avait demandé comment ça se passera quand il y aura beaucoup de Patreon, parce que moi j'encourage vraiment les gens à se lancer dans l'aventure. Évidemment, il faut avoir une communauté et construire et que la communauté vous fasse confiance, donc il faut vraiment construire cette communauté et la confiance et l'émission sans doute avant de se lancer, mais moi j'encourage les gens parce que je pense que c'est bon pour l'écosystème. Et Jonathan me disait, oui mais attends, si tous les podcasts se mettent à faire des Patreons, on va pas pouvoir donner à tout le monde. Et moi, je dirais évidemment, Tout le monde ne va pas pouvoir donner à tout le monde, hein, c'est clair. Si vous écoutez 10 podcasts, vous allez pas forcément donner à 10 ou 20 podcasts. Moi, j'en écoute 15, peut-être même plus. Mais par contre, je vois ça comme un modèle comme le kiosque, comme un kiosque. C'est-à-dire que il peut y avoir des centaines de magazines ou de podcasts différents, et il faut que le public grossisse aussi, qu'il y ait plus de gens qui écoutent, et vous rentrez dans un kiosque, vous allez avoir un magazine qui vous plaît, vous allez peut-être acheter régulièrement, je sais pas, un ou deux ou trois magazines ou cinq, ou des journaux et des magazines, etc. Ça veut pas forcément dire qu'on est limité à un magazine. C'est le truc dont on estime qu'il a de la valeur pour nous, eh ben on va sans doute être accepté d'y mettre une certaine somme. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le même modèle, parce que les magazines et la presse papier en ce moment, ça va pas bien, mais les podcasts, c'est peut-être une partie de la réponse pour l'avenir, ou en tout cas ce modèle est peut-être une partie de la réponse pour les podcasts, et c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle. Il y a, si vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose, si on vous a amené le fait de passer un bon moment, comme j'en parlais au début de l'émission, si on vous a permis de comprendre des sujets qui vous intéressent, si on vous a permis de décortiquer des sujets dont il vous aurait fallu lire des dizaines d'articles pour les comprendre, eh ben considérez peut-être donner un petit peu, hein, il suffit de pas grand chose, allez sur la page Patreon qui est liée dans les liens de l'émission, hein, c'est Patreon, Patreon/ RDVTech, patreon.com/RDVTech. Regardez la vidéo, voyez ce que vous en pensez. L'émission reste gratuite, l'émission sera là de toute façon, mais si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous, si vous pensez qu'elle vaut quelque chose, allez y jeter un coup d'œil. Peut-être que vous aurez envie de soutenir l'émission. Voilà pour la petite partie Patreon. Et entre parenthèses, je compte dans les soutiens un très glorieux Cédric Bonnet, que je remercie en direct.
Évidemment. Et d'ailleurs, je t'avais dit que le jour où tu m'inviterais, j'augmenterais ma contribution.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, ce sera chose faite dès demain.
D'accord. Eh bien, écoute, pourquoi tu crois que je t'ai invité immédiatement après?
Bien sûr. J'ai bien compris que c'était intéressé.
Évidemment. Bon,
mais tu vois, je suis obligé de payer ma participation à l'émission. C'est quand même dégueulasse.
Honteux. Bon, alors
on va lui faire payer le double de prix, double mais de prix, ça, juste exactement. Parce qu'il a
non,
fait
moi,
ça.
Non, mais moi, il va me payer en. Je vais devoir payer en Bitcoin, tu vois.
Il n'y a pas encore les Bitcoins, mais entre parenthèses, il y a des gens qui parlent de Bitcoin et tout ça. Je pense c'est encore un petit peu tôt, mais à terme, pourquoi pas. Bon, on continue avec les news et rumeurs. On va aller un petit peu plus vite là-dessus, Jeff.
Moi, par contre, je vais vous laisser.
Ah, d'accord.
Malheureusement, il faut que je vous laisse.
D'accord.
Parce que j'ai mon assistante qui me fait les gros yeux là. Il faut que je vous quitte. Bon. Donc, c'était un plaisir. Merci de m'avoir briefé sur l'histoire Free, SFR, Bouygues, Orange et Montebourg. Parce que franchement, c'est un quintumvirat qui n'était pas évident.
Ouais, c'est
et
clair.
Puis, on va voir si Sakamoto, Nakamoto est effectivement le fondateur du Bitcoin ou pas. J'espère que j'aurai l'info pour mon panel dans 15 jours à la conférence. Ce serait rigolo d'en parler. Et puis, on se retrouve d'ici un petit mois.
Ça marche, tu reviendras.
T'as qu'à inviter le premier japonais qui passe dans la rue, tu lui dis, je l'ai avec moi. Vu que personne ne sait à quoi il ressemble, tu le briefes vite fait un peu avant.
En fait, lui, c'est le vrai. Voilà. Ok, merci beaucoup, Jeff. Bon courage pour ta conférence. On te retrouve, toi, effectivement, dans deux épisodes, donc dans un mois. Et salut, Ashley, pour moi aussi.
Ce sera avec plaisir. Allez, salut.
Ciao. Bon, donc nous, on continue vaillamment notre petit bonhomme de chemin avec Apple CarPlay et, d'une manière générale, les téléphones et les systèmes de communication téléphonique smartphone embarqués dans les voitures. Parce que il y a une semaine de ça environ, Apple a officialisé sa technologie CarPlay, qui est en fait un système qui permet aux constructeurs automobiles d'avoir un écran qui se connecte à votre téléphone et qui crée un affichage dédié et spécifique pour les applications de votre téléphone. Alors on a dans les partenaires BMW, Volvo, Mercedes, Honda, Peugeot, Ferrari, General Motors, etc. Il y en a beaucoup qui vont commencer à sortir des systèmes CarPlay avec leurs nouveaux modèles. il faut peut-être voir un tout petit peu ce qui se passait avant et la manière dont les choses ont évolué pour les voitures, les systèmes embarqués de ce type-là, parce que avant, donc jusqu'à il y a quelques temps, en fait, chaque constructeur avait un petit peu son système. Et beaucoup de gens vont nous dire ah oui, mais
un petit peu, c'est chacun avait son système.
Bah, j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse, Cédric. Tu peux peut-être nous faire un état des lieux de la manière dont ça se passait jusqu'à aujourd'hui.
Non, mais en fait, c'était que des c'était que des solutions propriétaires et à la limite, les seules choses qu'on pouvait retrouver en commun, c'est que par exemple chez General Motors, donc Opel et tout ça. Ils achetaient les cartes chez Navtec, si je dis pas bêtises, pour les GPS, tu vois. D'autres les achetaient chez Garmin. Enfin voilà, si tu veux, c'était vraiment c'est Renault, je crois, qui utilisait les cartes Garmin. En fait, les seules différences, c'était au niveau de la cartographie. Et encore, c'était le seul endroit où aussi tu avais des points communs. Sinon, tout le reste, c'était que du propriétaire. Et donc finalement, tu te retrouvais avec des possibilités de connexion USB. Alors uniquement iPhone, iPod. Pour piloter l'iPhone et enfin la partie iPod de l'iPhone ou les iPods tout simplement.
Ouais, donc en fait, les systèmes autoradio ne servent, enfin les systèmes embarqués ne servaient qu'à contrôler l'iPod.
À rien.
Mais
musique
pourtant,
et c'est tout quoi.
Pourtant, il y avait des systèmes assez bien foutus comme le Sync de Ford, hein, dont on a entendu parler dans le monde des podcasts. Mais c'est vrai que ce que disaient les développeurs d'applications, c'est que c'était infernal parce qu'ils devaient développer des applications. Enfin, des API, leurs applications devaient être développées avec un outil intégré par système embarqué.
En gros, il y avait OS par marque, et même des fois, il y avait plusieurs systèmes par marque, en fait, hein, en fonction des gammes de voitures.
Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'était infernal. Donc, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est une consolidation du système, de ces systèmes-là. Et il y a un article, là encore, qui résume très, très bien tout ça, que je mettrai aussi dans les notes de l'émission, qui est un article sur CNET de Tim Stevens, qui résume le combat entre CarPlay, OAA et MirrorLink. Alors, CarPlay, c'est le système d'Apple. OAA, c'est le Open Automotive Alliance de Google, qui est en fait la même chose pour Android, qu'ils ont annoncé il y a quelque temps. Et MirrorLink, qui est une sorte d'alternative plus ou moins ouverte, qui sont... Bon, en gros, tous ces systèmes font un petit peu la même chose, avec différents degrés d'ouverture ou pas d'ouverture. Mais au moins, on se retrouve avec un système où il y a trois concurrents au lieu de 10 ou 15. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça veut dire que... Bah vas-y, explique ce que sont les bénéfices.
D'ailleurs, MirrorLink, si vous avez il y a certaines applications iOS qui sont compatibles MirrorLink, et donc quand vous branchez votre téléphone à votre autoradio en USB, bah, vous retrouvez avec une interface adapté à la voiture de votre application qui est lancée sur le téléphone. C'est le cas typique d'une appli GPS que vous avez sur votre téléphone. Ben, votre voiture n'embarque pas de GPS, elle utilise le GPS du téléphone, mais elle vous l'affiche sur l'écran de la voiture avec une interface adaptée à l'utilisation voiture, donc avec des gros boutons et ce genre de trucs. Voilà.
Et donc c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose pour les différentes applications. Donc pour l'iPod, vous allez contrôler.
Si tu lançais Spotify, t'avais une interface Spotify-like en MirrorLink sur ton autoradio, quoi. Voilà.
Et donc ça marche de la même manière
par le constructeur.
C'est ça. Mais là, ça marche de la même manière pour iOS et Android, hein, avec CarPlay pour iOS, etc. Et donc vous avez l'interface qui est adaptée. Par exemple, une voiture avec un écran tactile, ben vous allez pouvoir toucher avec des boutons plus gros, des contrôles un petit peu plus simples. Il y avait la démonstration de Mercedes. En fait, tout était contrôlé avec une sorte de molette,
c'est ce que j'ai dans ma voiture.
Voilà, qui est bon. On peut se dire la molette c'est super low technology, mais en fait c'est plus facile à contrôler quand on a les mains sur le volant. Exactement.
Quand tu as une grande voiture et que tu as l'écran qui est un peu loin, c'est pas très pratique d'aller appuyer dessus, quoi.
Exactement. Voilà. Donc voilà, en gros, c'était simple. On va pas en faire des tonnes, hein, c'est pas non plus la peine, je pense. Mais c'est pour résumer, pour dire que les systèmes sont en train de s'uniformiser. Le seul problème, c'est que si vous avez une BMW, par exemple, avec CarPlay, eh ben, si vous branchez votre Android dessus, a priori, ça rend pas grand-chose, quoi.
Non, donc, il va quand même rien se passer du tout.
Mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir 10 systèmes différents, on va dire.
Exactement.
Une conclusion sur ce sujet?
Non, mais à défaut de rendre les voitures smart, on utilisait smartphone justement pour les rendre un peu intelligentes. C'est pourquoi pas en fait. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt.
Bah, ils ont essayé pendant des années ouais, là. Ils ont essayé de rendre les voitures smart, mais ça non, ils n'ont pas réussi. C'est pas leur expertise quoi.
C'est voilà exactement. C'est pas leur domaine d'expertise. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec tout ça, je le sais bien parce que je connais des gens chez les constructeurs automobiles. Ils ont un peu peur d'une chose, c'est de devenir un peu comme les FAI. Comme les FAI, c'est-à-dire que finalement d'être plus que des fournisseurs de boîtes, donc la boîte avec quatre roues quoi. Ouais. Alors que les FAI sont des fournisseurs de tuyaux, mais finalement dedans qui fait l'argent c'est Apple, Google, Amazon, c'est toujours pareil. Le problème qu'il y a pour eux, c'est que ils ont peur qu'un jour la voiture ne soit plus
qu'un accessoire de téléphone.
Qu'un accessoire, voilà, c'est ça en fait.
Je pense qu'on n'y est pas encore, hein, mais
on n'y est pas encore, mais écoute quand. Tu vois des petites voitures comme l'Opel Adam qui est dans les 10 000 ou 11 000 euros avec CarPlay. Bon, ça te fait un accessoire à 10 000 ou 12 000 euros, mais tu vois, ça, si tu veux, tu peux te dire, tiens.
Bon, disons que sur 10 000 ou 12 000 euros, on a encore un peu de quoi faire de la marge et puis.
Bien sûr.
Ouais. Bon, à mon avis, mais je comprends, bon, je comprends la. Oui, je comprends, effectivement.
Ils ont un peu peur de ça que la partie logicielle leur échappe.
C'est vrai, ouais. Et puis on n'a pas parlé de la question.
Ils vont pas se différencier du coup en termes d'interface entre les constructeurs. Tu vois, c'est un peu comme les constructeurs de Windows Phone. Quand t'as un Nokia ou un HTC, t'as la même interface. Si demain t'as une Opel ou une Peugeot, que t'as la même interface.
Bon, disons qu'il y a quand
même.
À part
le look de la voiture, non mais à part le look de la voiture, comme le look du téléphone, finalement, tu vois, il y a pas de spécificité.
Bon, c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des différences entre les différentes voitures aujourd'hui, mais.
Plus trop parce que quand tu vois que toutes les voitures sont. Hauteur, les mêmes châssis. Non mais en plus. Il y a que la carrosserie qui change.
Mais en plus de ça, pour les gens qui sont un petit peu âgés comme moi, on se souvient d'une époque où les voitures démarraient pas l'hiver. Il y avait des voitures qui, tu vois. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que dit Tim Stevens dans son article. Il fut une époque où les voitures, il y en avait des vraiment pourries et des vraiment bien et des comme ci, des comme ça. Aujourd'hui, elles sont toutes plus ou moins bien, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine... c'est bien, hein, mais bon. Bon, continuons à parler un tout petit peu d'iPhone. Il semblerait que l'iPhone 5S continue à enregistrer les mouvements même quand il est éteint.
Alors, fantastique.
Mais là, on se dit, mais rien à foutre, machin. Sauf que ça peut être intéressant pour une montre connectée développée par Apple ou quelqu'un d'autre. Si le module, le fameux module M7, peut enregistrer les mouvements même quand il n'y a plus de batterie, ça veut dire que le fait de recharger une éventuelle montre connectée absolument n'est plus aussi importante. Ça veut dire qu'au moins, même s'il n'y a plus de batterie, on continue à garder les mouvements et l'aspect health, l'aspect santé, coach.
Je crois pas que c'est s'il n'y a plus de batterie. Je crois que c'est si l'appareil est éteint, mais il lui reste quand même de la batterie.
D'accord.
Il me semble que le module est quand même alimenté électriquement.
Ah, même quand il est éteint, d'accord. Bon. Tu me déçois là tout à coup.
Ouais, je suis désolé.
Bon, du coup, on s'en fout, effectivement.
Tu veux parler d'iOS 7.1 quand même. C'est en relation avec la news précédente, puisque iOS 7.1 apporte CarPlay. Donc,
effectivement, qui vient d'être rendu disponible.
Qui vient de sortir, et surtout si vous avez un iPhone 4 ou même un iPad mini ou un iPad 2. En iOS 7, c'est juste le jour et la nuit. C'est carrément plus fluide. Ça fait revivre les iPhone 4 qui étaient vraiment à la peine depuis iOS 7. Donc
il y a beaucoup de gens qui s'en plaignaient de iOS 7 sur iPhone 4.
Ouais, et en plus, ça corrige les problèmes de reboot intempestif de l'iPhone 5S, de l'iPad mini Retina et de l'iPad Air.
Il y avait
des reboots là depuis janvier. Apple promettait la mise à jour. Et c'est réglé avec la 7.1. Donc,
le black screen of death.
Ah oui, c'était redémarrage, carrément, ouais, c'était reboot.
C'est ça. Ok, donc super, la 7.1, il faut mangez-en, c'est bon, mangez-en. Google s'apprête à lancer le SDK, le kit de développement pour ses objets les wearables, je sais même pas comment on peut, il n'y a pas de terme en français. Qu'on peut porter sur soi, pour les objets connectés qu'on porte sur soi. Et ça arrive d'ici 2 semaines. Donc, ça arrive bientôt. Donc, c'est le SDK Android pour ces objets spécifiquement. Ils ont bien précisé que c'était pas que pour les montres. La Fnac se lance dans le streaming musical. Pourquoi pas, hein? Non, t'as pas l'air.
J'ai connu un des dirigeants de la Fnac, donc je dirais pas de nom, quelqu'un qui a qui est resté à la Fnac pas longtemps, hein, mais qui est arrivé avec en projet. C'était en 2000, c'est à 4 ou 5 ans. À l'époque, Spotify venait à peine de se lancer et tout ça. Et pour en avoir discuté avec lui, j'avais dit, écoutez, si vous voulez sauver la Fnac, vous lancez une offre toute illimitée de musique à 9,90€ comme Spotify. Vous lancez une offre toute illimitée de films à 9,90€ et vous lancez une offre toute illimitée de livres ou de bandes dessinées à 9,90€. Et là, la Fnac est sauvée.
Ouais.
Je dis voilà, si vous voulez sauver financièrement, hein, je parle pas des boutiques, hein, mais au moins financièrement la Fnac, vous faites ça et là vous la sauvez. Ben en fait, il s'est battu pendant un an pour le faire et ça n'a pas fonctionné. Je vois que 4 ans plus tard, il se décide finalement à le faire pour la musique, mais en fait, c'est trop tard. Hein, le train est déjà passé.
Ouais. Même s'ils ont une offre à 2 euros par mois pour 2 centimes.
C'est ridicule.
Bon, ok, d'accord.
Stop.
Ok. Copie privée, une autre chose ridicule. Le cloud bientôt soumis à la redevance
pour
la copie
privée. Entre nous, la Fnac, la dimension, elle est juste pas mondiale, quoi, tu vois.
Enfin, ah oui, c'est sûr. Ça, c'est.
Voilà.
Mais bon, donc, ça stop. Veut pas dire qu'on peut pas se battre en France, hein.
Oui, bien sûr. Trucs, bon.
Copie
tu sors
privée.
Ta marinière et tu fais
le cloud bientôt soumis à la redevance. Il y a le rapport Castex. J'aime bien le nom rapport Castex,
ouais,
qui parle de ce genre de choses. Bon,
là
le
je
cloud
vais être emmerdé, moi, vraiment.
Bah, c'est
parce
un peu.
Parce que j'avais pris Bitkassa à l'époque où pour 79€ par an, tu étais illimité.
D'accord.
Donc quand je regarde mon espace disponible, j'ai 562 téraoctets disponibles dans le cloud. Je me demande combien je vais payer de redevances.
Bon courage.
Peut-être que d'ailleurs,
Cédric.
Ça va me coûter. Ouais, ça va être une espèce d'ISF.
C'est ça. L'ISF de la copie privée. Oui, non. Bon, c'est pas encore passé, hein. Mais c'est une question qui se pose. Moi, je me dis. Enfin, franchement, il y a un moment, ça devient un peu la copie privée. Pourquoi pas dans le principe si c'est appliqué de manière claire et cohérente et tout ça. Mais enfin, là, ça devient n'importe quoi.
Non, mais stop. Voilà.
Taxons ça et ça et ça et ça. Ben c'est ça, oui. Surtout que bon, bref. Oh, il faudrait faire un épisode complet sur la taxe sur la copie privée. Canal Plus se laisse tenter par Studio Bagel, qui est juste pour dire que de plus en plus de grands réseaux commencent à investir sérieusement sur les chaînes YouTube.
Voilà. Ouais, ils avaient déjà des
Canal Plus.
Certains de Studio Bagel qui étaient chez Canal et Studio Bagel produisait aussi pour Canal Plus. Donc
c'est
bon,
vrai.
Voilà.
Ils étaient déjà à coquiner, quoi.
Et si la news qui est tombée juste avant le début de l'enregistrement, Canal Plus veut se payer aussi Dailymotion et apparemment se paierait Dailymotion.
Ah bah intéressant, ouais. Oui, j'ai pas vu cette news.
Et Arnaud Montebourg est content cette fois parce que bah du coup ça resterait français.
Mm-hmm.
Donc goodbye Yahoo. Hein.
Ouais, et, mais on parlait de Microsoft à un moment.
Ouais, alors ils vont prendre des participations dedans, mais ça restera complètement marginal en fait. Donc,
ah d'accord.
Donc voilà.
Ok, bah espérons Canal+, qui est une boîte d'envergure internationale, hein, tout de même. Donc ça peut effectivement peut-être donner
Dailymotion. Je sais pas.
Ouais.
Je sais vraiment pas quoi en penser, quoi. C'est bien.
Bah, ils ont des possibilités.
Là, mais...
hein. Techniquement, ils commencent à être au niveau, mais c'est dur. C'est sûr que c'est très difficile de se battre contre Yahoo, hein. Donc bon.
Getty, YouTube, tu voulais dire.
Oui, bah bien sûr. Pardon.
Contre Yahoo, je pense que sur ce domaine, ils les ont. Hein,
oui, dans ces airs. Non, mais c'est Y, tu vois, le Y, ça me perturbe. Ouais. Getty Images autorise l'utilisation de ses photos gratuitement. Bien sûr, vous connaissez Getty Images, qui est la collection de photos la plus grosse du monde et qui les vend en licence, bien sûr. Vous payez si vous voulez utiliser sur votre blog une photo à but non commercial, et ben vous payez une petite somme, vous pouvez utiliser telle photo. Et ben là, avec un embed d'image, donc vous avez quand même le lien Getty Images au-dessous. Si les gens cliquent dessus, et ben ça vous amène sur le site Getty Images de la photo, et puis vous avez les différents tarifs de telle ou telle photo, mais là vous pouvez l'utiliser gratuitement grâce à ce système. Le seul problème, c'est que c'est avec ce système d'embed, donc on peut pas l'utiliser par exemple pour illustrer un podcast ou dans une application ou ce genre de choses. Mais c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ouais, je trouve que ça va dans le bon sens.
Ouais.
Le problème c'est que je vois pas comment ça pourrait aller plus loin parce que il faut bien qu'ils vivent, quoi, ces gens-là.
C'est sûr. Le CNRS lance un média en ligne. Si la science vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du CNRS. Il y a le CNRS Le Journal sur lejournal.cnrs.fr, qui est un journal de vulgarisation scientifique. Bon, ça reste le CNRS, hein, donc c'est pas non plus je fais de la science sur TF1. Mais voilà, donc c'est une initiative
pas
intéressante.
Pas Jamy et Fred. Hein.
Ils étaient quand même pas mal.
C'est non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu moins fun, quoi.
C'est ça. Voilà. Donc, quelques autres informations qui t'ont marqué à noter. Le selfie de Hélène aux Oscars qui a été payé par Samsung, qui est un énorme.
Ouais, de la pub.
Ouais.
Quoi,
mais c'était le plus. Bah, c'est quand même un phénomène. Il a été retweeté, je sais plus combien de milliards, de millions, de milliards de fois.
Non, moi, c'est juste Uber, en fait. Ça m'intéresse vachement.
Ouais.
J'aime beaucoup, tu sais, le Uber Pop qu'ils ont lancé.
Les gens normaux peuvent devenir chauffeurs Uber.
C'est ça. Et je trouve ça pas mal. En temps de crise, je trouve ça intelligent, en fait. Voilà. Et tu vois, moi, je fais beaucoup de covoiturage avec Blablacar.
Mm-hmm.
Donc, site de covoiturage en ligne. Moi, ça me paye mes trajets d'autoroute. Ça permet de discuter avec des gens, de rencontrer des gens et tout ça. Et tu rends service en même temps, tu vois. Enfin. Je dois dire que je trouve que c'est une bonne idée, et là en plus ça se limite pas uniquement à des longs trajets, tu vois, typiquement Blablacar c'est du covoiturage plutôt sur le long terme, plutôt sur les longues distances, pardon. Là on est plus sur c'est presque, j'allais dire, de l'autopartage, mais ouais, c'est presque ça, quoi. Enfin, oui. Tu vois.
Bah ça, je pense que ça pose pas le même problème que Uber, parce que le problème de Uber, c'est la concurrence avec les taxis.
C'est ça.
Là, c'est vraiment du covoiturage simple, donc c'est vrai que c'est pas.
Voilà, mais j'aime beaucoup
le
Uber Pop, le principe de Uber Pop, donc voilà.
D'accord. Eh ben écoute, c'est sur ces quelques mots qu'on va conclure l'émission. Avant de nous dire au revoir, je vais tout de même évidemment te proposer, cher Cédric, de nous dire où on peut te retrouver sur Internet.
Ah ben non, moi je suis comme Nakamoto, hein. J'ai arrêté. Hein. Moi j'ai arrêté, c'est plus moi, hein. C'est un autre. Hein. Vous confondez. Moi je m'appelle Dorian Bonnet, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, sur Twitter, @CédricBonnet, sinon sur geeking.fr pour toujours geeking, en fait, voilà.
Ah, tu continues encore, Geekink?
Mais grave, hey, tu sais que qui est sorti dimanche dernier.
Tu sais que j'ai regardé sur le YouTube, justement. Regardé l'épisode spécial, mais sauf que c'était l'enregistrement.
Ah,
tu as mis du temps à sortir l'épisode monté. Vraiment du n'importe quoi, cet épisode.
Ah, c'était
très, très, très drôle.
Quoi. L'épisode monté va sortir, alors, pas ce dimanche, dans 3 semaines, en fait, il sort l'épisode monté.
D'accord.
Je me pisse dessus de rire à chaque fois que je monte une séquence, tellement c'est n'importe quoi.
Oui, non, c'était très... Bon, on vous laisse la surprise, hein. Vous pourrez aller découvrir ça. C'était très drôle. Et pour ma part, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Le Rendez-vous Tech si vous voulez aller mettre des commentaires sur l'émission, nous dire ce qui vous a plu ou pas plu, et puis nous laisser des commentaires sur sur un petit peu tout ce que vous voulez, hein. Évidemment, c'est toujours possible. Vous pouvez aussi découvrir d'autres émissions comme par exemple Upload ou French Spin. Et pour me retrouver moi spécifiquement, je suis sur Twitter sous le doux nom de NotPatrick. Je suis aussi sur Facebook, entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à Facebook, mais j'y suis. Toujours facebook.com/NotPatrick.
Ah,
oui, NotPatrick.
C'est toi qui es sur Google Plus aussi?
Et sur Google Plus aussi. Mais tu sais que Google Plus est hyper actif. Hein. J'ai
À chaque fois que je poste un truc, j'ai 50 réponses.
C'est incroyable, hein. Donc voilà, Facebook aussi, Google Plus aussi évidemment, comme on le disait en coupure d'émission au milieu, si vous pensez que l'émission vaut quelque chose...
Non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu marketes le truc, c'est-à-dire, si vous êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, avant de poster un commentaire, il faut obligatoirement souscrire au Patreon à au moins $1 pour poster des avis négatifs.
C'est comme ça que ça marche. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, patreon.com.
Si vous êtes d'accord, c'est au moins $3 pour dire que vous êtes d'accord.
Ah ouais, ouh là là, d'accord. Ah, mais j'ai pas les bonnes techniques, en fait. Bon, si vous pensez que l'émission vaut quelque chose, eh ben, allez y jeter un coup d'œil. Ça fait pas de mal et ça mange pas de pain et nous, ça nous fait plaisir. On vous donne dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Patreon, pas Patreon, Bitcoin, pas Bitcoin, Nakamoto, pas Nakamoto, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Et d'ici là, on vous fait tout plein d'énormes bises et on espère que vous avez passé un très bon moment plein de sourires avec nous. Ciao à tous, à très vite.
Ciao.